Sans Tempo, ouais. C'est l'épisode 9. C'est parti.
Oh là là, il s'est pas laissé déstabiliser.
Bienvenue dans DLT, vous commencez à connaître le podcast, on parle c'est de musique DLT entre maintenant. Passionnés. De quoi Michel ?
Bah avant c'était dans le tempo, maintenant c'est DLT, c'est preuve que les gens connaissent.
Mais exactement, toi tu préfères DLT ou dans le tempo ?
Oh moi je dis le podcast avec Salman.
Le podcast avec Salman, très bien. En tout cas, vous êtes un habitué si vous dites DLT, sinon c'est dans le tempo, le podcast qui parle de tous les aspects de la musique. Ce mois-ci...
Sans exception.
Sans exception. Ce mois-ci, épisode spécial Daft Punk. T'es chaud, Michel, ou pas ?
Je suis très, 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 très chaud. Enlevez les casques !
Non, en vrai, c'est
bah
bon.
Les casques.
Je crois qu'on en parle beaucoup déjà. Il n'y a pas besoin de faire une émission sur Daft Punk.
T'as pleuré ou pas, Salman ?
Non, j'ai pas pleuré. Après, on pourrait en parler, mais les mecs ont donné. Ils ont été là pendant des années. C'était très bien. C'est pas la fin du monde. Voilà, tout simplement. Bref, c'est pas du tout pour ça qu'on est là aujourd'hui.
Salman said fuck that punk.
Mais non, je ne me laisserai pas troller. Avant de vous présenter nos invités, parce que oui, cette fois, on n'a pas un invité, on a deux invités. C'est la première fois.
Petit plat dans les grands.
Mais j'accueille, comme il se doit quand même avant, mon gars Chronomusique, Michel. Bon, t'as parlé déjà beaucoup, mais je parle toujours quand même.
De gants comme voilà, des micro-dabs. Voilà, ça va ou quoi ?
Zizi caca.
Bah, écoute, tout va bien. Et donc, on a deux invités pour parler, Michel, d'un acteur de l'industrie musicale extrêmement important.
Leonardo DiCaprio ?
Non, le label. Okay. Le label, Michel. Est-ce que tu sais à quoi sert un label ? Est-ce que tu sais ce que c'est que le quotidien d'un artiste dans un label ? Comment il gagne de l'argent ? Comment ça se passe ?
Tout ça, c'est des questions que je me pose.
Eh ben, ça tombe bien, Michel.
J'espère bien qu'à la fin des 3 ou 4 heures qu'on va enregistrer ce podcast, j'aurai les réponses à ces questions.
Mais qui pourrait bien répondre à toutes ces questions ?
Eh bien, les Frenchies de Chillop. Chillop, c'est un label qu'on aime bien dans l'émission. C'est des mecs cool, vous allez le voir. On va apprendre donc plein de choses. On est avec Bastien Ebezen. Bonjour Bastien. Avec l'Indécis aussi, la légende, l'Indécis. Mais Michel, présente-nous nos invités.
Alors,
on est présenté en plus.
Attends, on va vous présenter à la bien. Donc Chillop, qu'est-ce que c'est ? J'imite les spectateurs, les auditeurs. Eh, dis donc, Salman et Chronomusique, Chillop, qu'est-ce que c'est ?
Mais on sait pas. Dis-nous, Michel, dis-nous.
Eh bien, vous voulez savoir ce que c'est, Chillop ? Eh bien, je vais vous le dire. C'est un label de musique néerlandais fondé en 2013 qui a la particularité d'être né sur Internet avec une très forte culture web au sein de ce petit label. Donc, un des acteurs majeurs, je dis petit, mais c'est un des acteurs majeurs du hip-hop instrumental et lo-fi. Vous cumulez chez Chillop plus d'un milliard d'écoutes plusieurs millions d'abonnés sur YouTube et en streaming. Alors, on a notre petit Bastien, donc qui fait partie des premiers employés de chez Chillop, qui a occupé différents postes tout au long de sa carrière au sein du label et qui maintenant est Head of Design chez Chillop. Donc, tu t'occupes de l'image du label. Tu supervises le contenu, les réseaux sociaux, les visuels, y compris les pochettes d'albums, etc. Et en gros, tu participes à tout ce qui fait de Chillop un peu la marque que c'est, en tout cas aux yeux du public. Bonjour à toi, Bastien. Et
bonjour,
attends, non, on ne me répond pas tout de suite. je vais présenter l'Indécis. Est-ce qu'on a le droit de dire ton prénom ou c'est secret ?
Oui, je préfère Arnaud, là.
Ah, d'accord. Ben, on est donc avec Arnaud de l'Indécis, qui est multi-instrumentiste. Tu fais plein de choses.
Et aristocrate, Arnaud de l'Indécis.
Aristocrate, ah oui, oui.
Arnaud de l'Indécis. S'il vous plaît.
Arnaud from the Indécis, comme disent les Américains. Donc, tu es multi-instrumentiste, tu fais beaucoup de soul, de jazz et de hip-hop. T'es surtout une figure de proue de la lo-fi. T'es là-dedans, je pense, depuis 2011. Toi aussi, hein, pareil, des millions.
Ah, 2011, je savais même pas.
Tu savais même pas.
Je pense que c'est là où j'ai commencé à faire un peu les premières prods. C'est instrumental, mais vraiment des trucs... Il n'y avait pas de mix, il n'y avait rien, voilà, il y avait un peu de sample, j'essayais des trucs, mais je pense que c'est quand même peut-être plus 2012, voire même 2013, où ça a été un peu plus sérieux.
Ok,
donc j'ai commencé à construire des projets, quoi.
À l'année près, quoi.
Non, mais.
Et attends, il arrive tout de suite, il fait être précis, s'il te plaît.
Je ne sais pas depuis combien de temps tu es signé chez Chillop.
Mais ouais, alors ça d'ailleurs, bah, je pense qu'on va en reparler, mais je suis pas exactement signé chez Chillop.
Ok.
Je
release avec Chillop et mes releases sont signés chez Chillop. Mais ça, je pense qu'on va peut-être en reparler.
Ok.
Et
ça fait combien de temps après vous collaborez? Parce que vous avez quand même un peu grandi ensemble, les deux structures, d'une certaine manière, toi artistiquement, et puis Chillop en parallèle, ça fait longtemps, non, quand même?
Ouais, ça fait un bail. Et ben, moi, en fait, j'ai commencé vraiment aux prémices où c'était encore une chaîne YouTube, où c'était Bass, du coup, qui est le CEO aujourd'hui, qui gérait vraiment juste sa chaîne tout seul. Et moi, vu que j'écoutais beaucoup ce style de son, j'ai envoyé un message en disant, hey, j'ai aussi fait un petit projet, si jamais tu veux le relayer sur ta chaîne. Et en fait, lui, il m'a invité à faire un Skype, on a discuté un peu, et il était très chaud aussi de partager mon projet sur sa chaîne.
Okay.
Et après, en fait, c'est vrai qu'on a toujours été en contact et que dès qu'il a commencé à faire une première compilation avec le label, bah, j'étais dedans, il m'a proposé. Du coup, j'ai fait la deuxième aussi. Puis après, il y a eu un petit EP qui est sorti et voilà, de fil en aiguille.
On va revenir sur la naissance un peu de Chillop, toi, ton lien avec. Bastien, surtout, va nous apporter cette vision vraiment de l'intérieur. C'est-à-dire qu'on a vraiment tenu à avoir deux personnes pour le côté, l'artiste d'un côté, et puis le label vraiment en tant que tel.
Tu
représenteras un peu Chillop, Bastien.
Artiste versus label.
Absolument.
C'est ça.
Et ce que je vous propose, c'est de commencer avec une première partie, juste pour replacer un peu les bases. Le label, donc un acteur de l'industrie musicale important. Tout le monde n'a pas forcément une vision très claire un peu de la division des tâches au sein de l'industrie. Il y a maison de disques, il y a label, il y a éditeur, distributeur, plein d'acteurs. C'est pas... Les rôles se mélangent même parfois. En plus, certains font un peu plusieurs choses. Mais commençons, Bastien, peut-être que tu peux nous dire un peu, c'est quoi les prérogatives d'un label? C'est quoi son rôle exactement? Même si j'imagine c'est multiple, si tu devais retenir l'essentiel, à quoi ça sert un label?
On peut peut-être partir de la traduction littérale de label, qui veut dire, je pense, étiquette en français.
Absolument.
Peut-être qu'il y a une piste à explorer à ce niveau-là.
C'est vrai. Non, mais écoutez, je pense que pour moi, un label, c'est une marque de fabrique pour un artiste. Ça serait plutôt, je sais pas, si tu vas acheter un t-shirt et que t'as l'étiquette Nike dedans, là, tout de suite, tu vas retrouver la qualité que tu connais chez Nike. Tu sais à peu près le prix et tout ça. Et je pense que quand un artiste est signé dans un label, ou pas forcément signé, mais release dans un label, et bien, il y a toute l'image du label qui vient apporter à l'artiste cette vision, qui partage la vision du label sur le côté artistique, sur le côté visuel et tout ça.
C'est une marque de fabrique, donc, de cette manière. C'est
exactement, c'est
un gage de qualité.
C'est comme un tampon qu'on pourrait mettre sur l'artiste.
Donc, ouais, et Bastien, est-ce que tu peux nous dire justement... Attends, c'est de ma gueule.
Pardon.
Quel enfoiré.
T'as l'air de t'être surpris toi-même.
Mais oui, absolument. J'essaie d'être dans le flow naturel des choses.
J'essaie de me reconcentrer. Vas-y.
Donc voilà, j'essaie de me reconcentrer. Là, il faut savoir une chose, pour tous ceux qui nous regardent, tous ceux qui nous écoutent, c'est qu'on a passé au moins 2 heures avant l'émission sur le setup à galérer comme pas possible.
Voilà. Enfin non, une heure et demie, parce que pendant une demi-heure avant, je faisais caca.
Oui, c'est vrai. Oui. Donc, résultat, on est un peu rincés tous, en vrai. Mais on va essayer de faire quand même une émission intéressante et un peu punchy. Donc, en fait, c'est une forme de marque, de fabrique, avant tout le label, plus qu'une structure en tant que telle. Enfin, ou en tout cas, avec des rôles, il y a forcément des fonctions, on va en parler. Mais avant tout, c'est de cette manière une image.
Un gage de qualité. C'est comme une marque d'un vêtement, par exemple, ou d'un produit. Comme d'un micro Thomann, par exemple.
Par exemple, c'est un hasard.
Il l'a placé. Bien vu, t'auras ton chèque à la fin, Bastien, bien joué.
Mais alors, c'est un peu le principe, mais j'imagine quand même qu'il y a des fonctions plus opérationnelles, plus directes quand même du label. Si on divisait un peu ça, tu vois, quoi ça sert
Alors, je vais prendre l'exemple de Chillop. Donc, nous, on est une structure qui, à la base, était une plateforme de diffusion sur YouTube et sur Spotify. Chillop Music, c'était avant tout une chaîne YouTube qui mettait en avant des artistes sans forcément les signer, sans contrat. C'était juste par pur plaisir et par pure passion de la musique hip-hop. Donc aujourd'hui...
Tout a changé.
Tout a changé.
C'est plus du tout par passion que c'est l'argent.
On
a des rageux. Bah écoutez, je voulais leur dire que je devrais écouter un peu plus de Chillop, mais
ça va, c'est positif. Ok.
L'avantage d'un label comme le nôtre, c'est qu'on est un label indépendant. Donc on ne dépend pas d'une major, on ne dépend pas d'une major comme Universal ou Sony. qui vont investir dans ces sous-labels pour justement générer plus d'argent. Nous, on n'a personne au-dessus de nous.
Voilà, vous avez personne au-dessus.
Donc on est complètement indépendant dans la direction artistique, dans les visuels, dans ce qu'on dit, dans ce qu'on fait. Et du coup, on touche l'intégralité des revenus qu'on peut se partager entre l'artiste et donc nous, les employés et l'entreprise. Un label indépendant comme Chillop en 2021 va s'occuper d'accompagner l'artiste. Donc il faut savoir qu'aujourd'hui les artistes peuvent s'autoriser, donc ils peuvent. Je pense qu'Arnaud a déjà fait ça dans sa vie, donc passer par aucun label, juste mettre sa musique librement sur Spotify et toucher du coup l'intégralité des royalties.
Passer par un distributeur, en gros, quoi, un distro-kid.
C'est ça, chose vous exactement.
Un distro-kid comme beaucoup d'artistes aujourd'hui. Mais c'est juste que parce que les artistes qui peuvent faire ça et gagner leur vie, c'est qu'ils sont eux-mêmes une marque. Donc ils ont eux-mêmes leur image et ils ont eux-mêmes leur communauté. Donc ils ont même pas besoin d'un label pour vendre leur musique, pour la distribuer et pour faire leurs artworks. Ils demandent à des amis ou ils connaissent forcément des artistes. Mais nous, en tant que label, eh ben, vu qu'on travaille avec des artistes qui n'ont pas de marque, donc comme Arnaud en 2013, n'avait pas vraiment d'image.
C'était personne, on peut le dire.
J'étais juste rien. Ils m'ont récupéré au bord de la rue. Je faisais jouer de la guitare et ils se sont dit bon.
C'est ça. Ils jouaient l'histoire classique de l'artiste de rue. Bah, l'artiste de rue sur SoundCloud, en fait. La rue, c'était SoundCloud. C'était là que tu trouvais.
La rue, la vraie.
Tout à l'heure, tu faisais référence au major. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que. Une maison de disques, elle va avoir comme particularité vraiment d'accompagner beaucoup la production, c'est-à-dire d'avoir mettre à disposition pourquoi pas un studio, etc. Mais fondamentalement, on peut considérer ça comme un label aussi, parce qu'en fait, elle fait plein de choses. Et souvent, d'ailleurs, les grandes maisons de disques, les majors, sont divisées en sous-labels. Mais en réalité, c'est la même structure en tant que telle. Donc c'est là, effectivement, où c'est important de spécifier que l'indépendant est différent. L'intérêt de la maison de disques, c'est-à-dire c'est un terme peut-être un peu plus générique, mais où on partira un peu du principe que c'est plus large leur prérogative, là où le label va être peut-être un peu plus précis sur certains trucs. La distribution, par exemple, je sais pas, vous faites appel à un distributeur, vous distribuez vous-même, comment ça se passe?
Ça a changé d'ailleurs, ça, maintenant, vous faites vous-même. Ouais.
Au début, on distribuait sur TuneCore. Petit à petit, tu te rends compte que... avec TuneCore, t'es limité.
T'as pas forcément, en plus, les outils pour label, c'est pas forcément l'idéal, non, il me semble aussi.
T'as aucun accompagnement, en fait. T'as aucun accompagnement. Okay. Voilà, en fait, tu gagnes plus de royalties, mais t'as aucun support. Donc c'est un choix stratégique à faire quand t'es un label, parce que quand tu bosses avec une structure de distribution, pardon, tu as des contacts avec des plateformes comme Spotify, Apple... qui te permettent de mettre en avant tes morceaux. Et donc, en fait, c'est un deal que tu fais avec une entreprise de distribution, une boîte de distro. Le choix est stratégique à partir du moment où ton distributeur va pouvoir t'aider à mettre en avant ta musique et peut-être atteindre des nouveaux secteurs comme la Corée du Sud, le Japon, la Russie, la Chine, qui, si tu passais par un distributeur un peu plus classique, serait plus limité au classique Spotify, Apple Music, ce qu'on appelle les DSP.
Vous me dites, les gars, ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression que aujourd'hui, évidemment, de plus en plus d'artistes sont vraiment se mettent le plus indépendant possible, de façon à avoir une maîtrise, etc., à la fois évidemment des revenus qu'ils génèrent, mais aussi de l'aspect artistique, de pouvoir décider vraiment de la stratégie de communication, des couleurs, des artworks, des sonorités même qu'ils souhaitent. Et on a souvent tendance un peu à voir ça en disant « Ok, d'un côté, il y a les indépendants, de l'autre côté, il y a les majors, les grosses structures, etc. » Mais en fait, le label, d'une certaine manière, il peut correspondre à un peu l'entre-deux.
L'entre-deux, ouais.
Et toi, par exemple, Arnaud, donc l'Indécis, comment ça s'est passé? Tu as commencé à développer donc un projet artistique. Très vite, tu t'es dit justement, j'ai besoin d'une structure où c'était peut-être pas aussi conscient. Ou en tout cas, comment tu l'analyses aujourd'hui, ton rapport à la structure, tu vois, le fait d'avoir un label?
Moi, je sais que la première chose qui m'a donné envie de contacter... Alors, c'est vrai qu'à la base, Chillop n'était pas un label, c'était une plateforme de diffusion, mais au final, on va voir que c'est un petit peu la même chose aujourd'hui. Moi, quand j'ai sorti mon premier projet, donc premier EP que j'avais fait donc en 2012-2013, on sait plus trop les chiffres. J'ai sorti ça sur les plateformes YouTube, j'avais quasiment pas de communauté, quelques abonnés SoundCloud, etc. Et j'ai fait 100 vues par track, quelque chose comme ça. Et je me suis dit, putain, voilà, j'ai mis l'énergie là-dedans, j'ai créé mon artwork, j'ai tout fait moi-même et à la fin, j'ai 100 personnes qui ont écouté. Et moi, ce que je me suis dit, bah, c'est vrai que je connais déjà plusieurs chaînes YouTube qui partagent un peu ce genre de son. Et moi, ce que je veux, c'est juste toucher le plus de gens possible. Et je pense que c'est un peu le truc numéro un quand t'arrives avec une proposition musicale, c'est je veux toucher le plus de gens et avoir le plus de retours possible.
Et l'oseille.
Et l'argent, bien entendu. Ouais. Non, mais là, il y avait même pas question de ça, tu vois, mais parce que je pensais même pas encore en vivre ou quoi. C'était vraiment juste, je veux faire plus, je veux toucher plus de gens. Et du coup, bah, c'est vrai qu'après, travailler avec un label, ça, forcément, ça c'est un peu de tremplin aussi. Et le label a a priori une portée plus grande que l'artiste. Alors, il y a des cas où c'est pas le cas. Mais, moi, ouais, je dirais que c'est la portée qui est cool. L'aura, quoi, du label.
Michel, t'as déjà travaillé avec un label? T'as déjà réalisé des trucs via un label?
C'est une bonne question. Je pense pas. Non.
tu saurais, normalement.
Personne m'a rien dit. Si c'est le cas, je suis dégoûté.
Mais ça t'est, tu t'es déjà posé la question, pourquoi pas de...
En fait, j'ai travaillé avec des gens qui travaillent chez, par exemple, Universal ou des trucs comme ça. Mm-hmm. Mais moi, je suis jamais rentré directement en contact avec eux et mes morceaux à moi, je les balance sur distro et puis basta, si j'ose dire.
En fait, il y a un truc aussi que je veux dire, c'est que je sais même pas si, en fait, vu que ça s'est fait, comme je disais à la base, c'était une chaîne YouTube et que moi je connaissais très bien Bass et qu'ensuite il a créé un label, j'ai été, dans cet engrenage-là. Mmh. Et je sais même pas si à l'époque je me serais dit, il faut que je sorte ça sur un label, tu vois. Je sais même pas si j'aurais réfléchi comme ça.
C'était avant tout une aventure humaine pour toi et.
Ouais, clairement, c'était vraiment parce que Bass c'est un pote, il a lancé ce projet et moi forcément je voulais aussi en faire partie, tu vois.
Ouais.
Et. Ouais, je pense que c'était plus l'aventure humaine qu'autre chose.
Ouais. En tout cas, pour moi, genre, j'imagine mal quelqu'un en 2021, en big 2021, si j'ose dire, se dire genre, j'ai hâte de me faire repérer par un label.
Tu vois, genre, ouais, c'est sûr. C'est
tu
sûr.
Vois, je pense que plus personne se pose la question. Si ça arrive, c'est cool. Mais personne part avec cette idée-là en tête.
Ouais, je suis à moitié d'accord avec toi parce que, enfin, je pense que c'est de plus en plus vrai ce que tu dis, mais qu'il y a pas mal de styles musicaux encore où, par exemple, ça nécessite des moyens pour produire ces albums.
T'es jamais d'accord avec moi, Salman.
Non, c'est juste que je mets de la nuance. C'est qu'il y a plein de styles musicaux encore où en fait t'as besoin d'une belle somme de fric à la base. Tu peux pas te contenter du home studio, par exemple.
Oui,
et
oui,
là,
oui.
D'avoir une structure qui t'accompagne, ça devient un truc important. Et ça peut faire rêver des musiciens, tu vois, de se dire « Putain, j'ai une structure qui met un peu de fric et je peux réaliser des trucs ambitieux, tu vois. »
Oui, de fou. Il faut aussi pas... C'est vrai que la scène lo-fi, chill-up, etc., en vrai, c'est une scène particulière. Et je sais pas si tu... Par exemple, mon frère chante et il fait de la folk, etc. Et il est un petit peu obligé de passer par le cursus un peu classique d'aller se vendre en concert, etc. Il y a pas du tout ce truc de playlist, tu vois.
Ah, ouais.
C'est tout à fait différent. Et je pense que si dans le chill-up, lo-fi et tout, on est un peu dans une espèce de sphère... tu vois, avec un système qui fonctionne et on se rend pas compte, les chiffres sont hallucinants. Enfin, tu vois, tout ça, c'est des choses qui sont pas réalistes, je trouve.
Ouais, c'est un peu de la Internet musique, quoi.
C'est vrai.
Ouais, c'est de la musique d'Internet pour Internet. Enfin, après, ça sort dans la vraie vie, il y a des vrais gens qui les écoutent, tu vois.
On va en parler, parce que justement, Bastien, l'un de ses buts, bon, je spoil un peu, mais c'est peut-être de sortir justement de cette logique, en tout cas, que ce soit plus seulement ça. Mais on y reviendra. On va justement passer à une partie un peu plus précise
sur voilà politique.
Quand on fait partie politique Macron. Absolument Macron McFarlane Macron parlons-en.
Qu'est-ce que vous pensez de la vidéo?
Pour moi Macron c'est du caca.
Non, ne rentrons pas là-dedans. On a réussi pendant 9 épisodes à éviter genre de trucs. Essayons de
oups.
Bref, ouais, deuxième partie, vraiment l'idée de faire partie d'un label, on comprend là l'utilité d'un label, mais comment ça se passe la relation, tu vois, un peu au quotidien, notamment entre label, artiste, etc. Par exemple, Arnaud, tu disais que tu fais des releases, mais que t'as pas un contrat directement avec le label, en gros. Ça se passe souvent comme ça, ou peut-être que Bastien, il peut nous dire aussi, avec les autres artistes du label, comment ça se passe. Peut-être ton cas d'abord, Arnaud, puis ensuite Bastien nous dira.
Donc moi, comme je disais tout à l'heure, j'ai mes releases chez Chillop qui sont signées. Mais c'est évident parce qu'ils ont besoin aussi d'avoir les droits d'exploitation, de pouvoir les sortir sur les réseaux. Donc, t'es obligé de toute façon d'avoir un contrat quand une structure diffuse ta musique. Mm-hmm. Mais en tout cas, moi, en tant qu'artiste, j'ai rien signé du tout. Je suis pas signé sur un certain nombre d'années, etc. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie pour le coup et que je veux pas. Voilà, moi, je veux vraiment ne signer avec personne, pas de contrat d'exclusivité, quoi que ce soit. Ça peut-être on en reparlera aussi après, mais parce que je pense que c'est important d'avoir la liberté de sortir des choses en indépendant, carrément seul, ou sur même d'autres labels, de s'ouvrir aussi à d'autres styles, etc. Et moi, j'ai pas envie de m'enfermer avec un label en particulier.
Bastien, justement, est-ce que chez Chill Up, il y a des artistes vraiment signés un peu, tel qu'on l'entend, tu sais, un peu à l'ancienne, c'est-à-dire qu'il y a effectivement ce contrat soit d'exclusivité, soit où on attend tant d'albums de la part de l'artiste, par exemple, des choses comme ça? Ou est-ce que c'est tout le monde comme Marnaud?
Au début, on était donc tout le monde comme Arnaud parce que les artistes, on a découvert qu'ils avaient quand même tendance à vouloir être libres. On voulait pas les emprisonner créativement. S'ils ont envie de réaliser avec un autre label, on les encourage à le faire parce que tout ne va pas nous plaire et on veut pas les empêcher de créer et de sortir des choses. Nous, on va mettre tous les moyens de notre côté pour que quand la release sera faite avec nous, pour qu'elle soit la plus belle possible, qu'elle soit le plus écoutée possible et qu'elle soit la plus aimée possible. Et ce qui est aussi mon travail, c'est que les gens reçoivent le projet de la meilleure manière qu'il soit. Après, on a un artiste avec qui on a signé un contrat qui s'appelle Sleepy Fish. Donc c'est la première fois qu'on fait ça. Donc j'ai supervisé une grosse partie de tout l'identité visuelle de cet artiste. Donc on lui a fait un logo, on lui a créé donc une image. Donc pour les gens qui connaissent. C'est un petit poisson, donc Sleepy Fish, qui est un petit poisson qui dort. On a inventé toute une histoire autour de ça. Donc voilà, c'est un concept qu'on a inventé, qu'on a voulu emmener avec nous les auditeurs. Ça a bien marché. On a fait trois albums en un an, ce qui est beaucoup et qui donc du coup a créé une petite marque autour de cet artiste.
Ce que tu veux nous dire, c'est que il peut y avoir un véritable accompagnement artistique, quoi.
Exactement.
Donc, et toi, à l'inverse, Arnaud, c'est pas un truc forcément que tu voulais, ou alors au compte, parce que tu parlais d'exposition, notamment le fait de pouvoir toucher un public, etc., à travers le label. Est-ce que ça a été aussi un truc de travailler ton image, de travailler le projet artistique et tout avec Chill Up, ou pas forcément?
Oui. Ça a été le cas pour mon dernier album chez eux, Second Wind. Où du coup Bastien a un peu plus pris le lead au niveau du design et du coup a plus travaillé directement avec l'artiste, contrairement à ce que j'avais l'habitude de faire avant, donc plutôt de collaborer tout de suite avec l'artiste, de faire un peu mon truc et ensuite de proposer quelque chose. Là il y avait plus quelque chose qui était fait en commun, et du coup voilà, il y a eu l'objet, le vinyle qui a été fait, il y a eu des choses qui ont été faites un peu en plus.
Même ton premier EP, quand j'ai commencé à travailler chez Chill Up, Playtime, c'est un des premiers projets sur lesquels j'ai travaillé, aussi avec Geoffrey Magellan, qui fait beaucoup d'illustrations.
Shout out to Geoffrey.
S.O. Geoffrey.
S.O. Geoffrey.
Qui a fait beaucoup de visuels aussi pour tes précédents albums et qui a bossé aussi sur beaucoup de visuels après, par la suite. Donc, on a aussi créé une relation avec un de tes amis qui était un illustrateur et qu'on a, avec qui on a continué à travailler à Chill Up. Mais ton premier projet, donc Playtime, en 2018, était...
2018 ?
Ouais, 2018.
Je suis vraiment mauvais avec les années. J'ai l'impression que c'est si vieux, mais ouais, c'est vrai que 3 ans déjà. C'est vrai.
On va aller fêter les 3 ans et puis on a... Je me souviens, on a mis une vidéo sur YouTube qui a fait 40 millions de lectures en un an ou deux, qui était la première fois qu'un single fasse autant de lectures pour nous. C'est devenu un hymne du jazz instrumental sur YouTube. Les gens se plaignaient que c'était toujours recommandé par YouTube, tellement ils l'entendaient. Et c'était un peu la première fois qu'on avait travaillé ensemble. Et du coup, voilà, pour l'anecdote.
Un franc succès, on peut dire.
Un franc succès.
Entre français. Est-ce que ça t'a rapporté beaucoup d'argent d'ailleurs, Arnaud?
Mais tout un tas d'argent. Voilà, j'ai acheté de multiples appartements à Rotterdam. Non, c'est fou. Oui, effectivement, ça m'a apporté de l'argent et aujourd'hui toujours, c'est mon numéro un. Donc c'est ce qui m'apporte le plus de thunes par mois. Tu vois, c'est Playtime et ce son-là en particulier. Les nouvelles releases que j'ai faites, elles ne sont pas. En tout cas, si on parle vraiment de l'aspect financier uniquement. M'apporte moins que ce truc-là qui est sorti en 2018.
Michel,
ce truc là. Ouais, j'en parle comme ça maintenant, c'est bon, je suis plus du tout.
Ton petit bébé.
Est-ce que tu mises sur la Zizi Kaka mixtape pour faire de l'argent sur des années, comme Soulful de l'Indécis?
Alors, oui, mais non.
Il faut pas le préméditer.
Sinon,
ça marche jamais.
Je pense que ça va être absolument phénoménal. Je le dis comme ça maintenant. Je pense que ça va être la meilleure mixtape de merde. Qui soit jamais sorti.
D'ailleurs, peut-être qu'il y aura Soulful 2 sur la Zizi Kaka mixtape.
Hashtag l'Indécis sur la Zizi Kaka mixtape, point d'interrogation.
Oh là là.
Écoute, si après, en plus, les revenus de la mixtape sont reversés un peu à tout le monde, tu as divisé, si on a un tube comme Soulful, tout le monde peut se mettre bien. Hein. C'est bon.
moi, j'ai dit, tous les revenus, ils sont vraiment reversés en fonction du travail que chacun fait sur les trucs. C'est-à-dire, si quelqu'un se ramène avec un solo sur la Zizi Kaka mixtape, c'est pas forcément le but non plus. Parce que l'idée, c'est quand même qu'on fasse des collabs et tout, tu vois. Mais si quelqu'un se ramène avec un solo et que le solo, il est archi chaud et tout, la personne, elle prend 100% des royautés. Et c'est comme ça, tu vois.
Genre, oui. C'est juste pour ceux qui nous écoutent ou nous regardent, c'est que Michel est en train de préparer une mixtape avec tout un tas d'artistes. Suivez Michel sur Twitter, vous comprendrez tout ça. Il y aura peut-être Arnaud. J'essaie de faire un petit truc aussi. Je sais pas si ce sera de qualité, donc on verra si ça apparaîtra, mais je vais essayer de faire un truc.
Au pire, tu nous fais une petite analyse sociologique.
Absolument.
De la mixtape.
Exactement, de la puissance du zizi et du caca. Absolument.
Voilà. En tout cas, des nombreux teasers qu'on a eu de Michel, soyez prêts, ça va être excellent.
Ah, ça va être incroyable. On a du très 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 lourd. Zizi Kaka mixtape, je le redis, la meilleure mixtape de merde qui soit jamais éditée.
Édité. Absolument.
Édité. SO DistroKid.
Ok, ouais, ok.
Alors, c'est parfait. La liaison est parfaite, Michel. Tu es un génie.
Ah,
c'est
je sais.
Le label, donc on l'a dit, il peut accompagner de manière artistique, enfin l'artiste, notamment sur le contenu, etc. C'est en particulier ton boulot, Bastien. Donc on fait de la DA, on crée du contenu, etc. pour faire parler du projet. Vous gérez aussi, donc si j'ai bien compris, la distribution. Alors tu disais que historiquement vous passiez par TuneCore. Aujourd'hui juste vous passez par un autre service, mais c'est quand même toujours vous qui avez en charge la distribution.
Non, en fait le service est c'est une autre entreprise en fait. Ouais. Donc c'est un service qui a beaucoup de relations dans l'industrie musicale et qui lui s'occupe de nous créer des opportunités avec du coup c'est DSP, donc Digital Streaming Platform, okay. Spotify. Wow.
Ça m'a l'air bon.
Ouais, impressionnant. Ça toutes les lettres y sont.
Même si c'est pas ça, ça marche. donc au Deezer, donc pour parler français, ce sont des partenaires qui sont hyper importants pour nous pour le placement de nos artistes, parce que c'est bien beau de mettre sa musique en ligne, mais si personne l'écoute, ça ne sert à rien.
Donc ça veut dire que c'est un distributeur externe qui bosse avec vous, c'est ça?
Exactement. Nous, on leur donne la musique finie, l'artwork, la musique masterisée, on leur donne et eux s'occupent de le distribuer digitalement.
Voilà, là tu parles uniquement de ce qui est digital, mais pour ce qui est physique, maintenant c'est Chillop qui gère, il me semble.
Voilà, donc on n'a pas une énorme quantité de production, mais on fabrique nos vinyles nous-mêmes et on les vend tous sur notre webshop. Donc on ne passe pas par la Fnac
La bonne époque de Crates, ça c'était cool.
Voilà, Crates aussi qui était un peu ce qui a relancé un peu l'industrie du vinyle,
parce que
les gens pouvaient faire du crowdfunding pour leurs albums et presser à partir de 100 vinyles. Donc si tu avais une petite communauté de personnes qui étaient prêtes à acheter ton vinyle, tu pouvais presser 100 vinyles.
Tout à fait.
Et d'ailleurs, c'est le service qu'on utilisait au début avec Chillop aussi, vu que Chillop était un petit maillon dans la chaîne de l'industrie musicale.
Ok. Et donc, vous dites crates, mais vous dites crowdfunding.
Moi, je n'ai rien dit. J'ai pas dit crowdfunding.
On est français avant tout, quand même.
Le français n'est pas cohérent.
Comment on dit crowdfunding en français?
Du crowdfunding.
Ah, ça y est.
Crowdfunding et crates. Voilà.
Voilà.
Mais crates avec un Q.
Un
cul de Taïwan.
Les gars, si j'ai bien compris, donc on a parfois la distribution, on fait appel à un distributeur, il y a l'aspect artistique, etc. Est-ce que aussi il y a un accompagnement plus un peu humain, personnel, même pourquoi pas juridique, parce que, je sais pas, imaginons, je suis un artiste, j'ai fait un tel morceau, j'ai utilisé un sample, est-ce que c'est le label qui va me dire fais gaffe, est-ce que, enfin, au-delà de tous ces éléments dont on a parlé, quels autres accompagnements, quelles autres choses un peu le label peut apporter?
Nous, en tant que label, on essaie d'en faire au plus pour l'artiste, donc, bien sûr, on les signe pas, mais on aime bien qu'ils nous fassent confiance, donc on essaie de mettre en place une relation de confiance, comme on a fait avec Arnaud, qui a donc aussi déménagé à Rotterdam pour montrer à quel point il aimait être proche de nous.
Et le fromage.
Et j'adore fromage. Le gouda. C'est vraiment...
Enfin, pour le fromage, je préfère rester en France, quoi. Il y a certes des fromages cool. Ah bah non, attends. En termes de diversité, etc., je pense que c'est quand même autre chose, non?
Donc on rentre dans la partie fromage.
Oui, absolument. C'est parti. Fromage.
Est-ce qu'il y a un jingle fromage?
Michel, il nous fera un jingle fromage.
J'en promis, je le fais.
Parfait.
Qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre d'un point de vue, je sais pas, juridique, d'un point de vue financier? Est-ce que vous l'aidez aussi un peu, l'artiste, à s'y retrouver, savoir comment gérer sa thune, enfin, ou du moins, qu'est-ce qu'il va obtenir de quoi, comment déclarer éventuellement dans son pays? Enfin, il y a tellement de trucs. Est-ce que c'est un peu ça aussi le rôle d'un label ou pas du tout? Il y a d'autres interlocuteurs pour ça?
Ben, c'est le rôle d'un label, surtout quand ils sont indépendants, vu qu'ils n'ont pas de structure. Donc, il faut qu'ils... En fait, on fait un peu office de maison de disque aussi, parce qu'on s'occupe de l'artiste et du projet à 360 degrés.
Y compris même de l'enregistrement, par exemple. Vous pouvez mettre à disposition un studio, un producteur.
Exactement. Ah ouais. On peut mettre un studio, on peut mettre des ingé sons, on peut mettre des directeurs artistiques. Donc, on a un A&R, donc A&R, c'est le Artist and Repertoire. Pardon pour l'accent. C'est quelqu'un, voilà, qui va accompagner l'artiste dans le développement de son projet. Il y a des artistes qui s'en sortent très bien tout seuls et qui veulent s'occuper indépendamment de leur projet. Ils nous le livrent. On le prend ou on le prend pas. Si on n'aime pas, ils vont le distribuer. Ils vont essayer de le distribuer avec un autre label ou bien indépendamment. Et quand le projet nous plaît, ben, du coup, on va mettre en marche toute notre équipe. Donc, qui passe par, voilà, le développement. Prenons l'exemple d'un album. Ben, dans quel ordre seront les morceaux? Est-ce qu'il y a des retouches à faire? Est-ce qu'il faut, je sais pas, enregistrer avec une vraie batterie, les kicks? Enfin, tu vois, tout ce process du développement musical. Et après, on pourrait expliquer un peu le process. Quand l'artiste, une fois que l'artiste s'est défait de toute la création musicale, nous, on va réfléchir avec lui sur le concept. Donc, disons qu'un album aujourd'hui, il faut qu'il sorte un peu du lot si tu veux que les gens l'écoutent, parce que c'est facile de mettre sa musique en ligne, mais il y a énormément de concurrence aujourd'hui. On n'a pas idée du nombre de personnes qui peuvent faire de la musique chez eux. Donc il faut qu'ils sortent leur épingle du jeu. Et c'est là que le label va intervenir créant une image autour du projet. Donc, Arnaud pourra l'expliquer. On a bossé tous les deux sur le développement d'un concept sur son album Second Wind, sorti en 2019.
Ah, me demande pas les dates. Je suis terrible.
Donc, son album, son deuxième album, qui est, du coup, on est parti d'un concept qui était un ballon rouge qui s'envolait et qui représentait un peu, qui se laissait porter par le vent, et voilà, qui représentait un peu la liberté et l'exploration, et voilà. Et donc on a mis en place toute une stratégie, un plan marketing autour de ce ballon rouge. Donc on a fait un clip animé, on a fait une live session avec Arnaud à Rotterdam. On a fait, voilà, un artwork assez minimaliste, assez... D'ailleurs, il est bleu, blanc, rouge, si certaines personnes
peuvent remarquer.
Yes. Quel point, voilà, les Français bossent ensemble. Surtout que, voilà, je suis le seul Français à Chilop.
On glisse des drapeaux français comme ça.
Des petits drapeaux français, des petites baguettes et des petits bouts de camembert à droite, à gauche. Mais voilà, et du coup, donc, l'idée, c'est qu'une fois que l'artiste nous a donné la musique, nous, on va s'occuper de développer avec lui un univers autour. Je pense qu'il y a beaucoup d'albums que les gens aiment bien pour la musique et aussi pour les idées qu'ils transmettent. Voilà, parce que ça aide beaucoup
Moi, il y a un truc sur lequel je voulais rebondir, c'est ce que tu as dit quand tu as dit l'artiste se... Comment tu dis ça déjà ?
Se défait.
Se défait de la créativité, et nous, du coup, on modèle quelque chose. Et là-dessus, je trouve que c'est intéressant parce que je me demande aussi si parfois, il ne faudrait pas que, comment dire, que la créativité de l'artiste fonctionne aussi avec le label. Par exemple, là, si tu parles en termes de visuel, que l'album se construise au même moment où le visuel se construit, par exemple. Mmh. Moi, je pense par exemple au projet que j'ai pu faire avant, peut-être Pléthoria, qui était peut-être qui était peut-être le plus abouti en termes de visuel. Mais moi, 2016. ce que j'ai beaucoup apprécié, ouais. 2016, merci. Ce que j'ai beaucoup apprécié en termes, en tout cas, de là, si on parle vraiment du design, c'était la collaboration que j'ai fait avec Geoffrey. L'album s'est tout à fait construit au même moment que le visuel. Pour expliquer le truc, il y avait un visuel par morceau, et à la fin, me demandez pas le nombre de morceaux, 12, 13. il y avait un visuel par morceau, et ça construisait une petite histoire. Et moi, ce que j'ai aimé, c'était aussi cet échange de tiens, mec, je t'ai envoyé le son pour la prochaine illu, moi j'imagine ça. Lui, il m'envoyait un visuel, et moi derrière, je me disais ah, t'as mis une bouteille d'oxygène avec des bulles, bah tiens, je vais rajouter un petit sound design de bulles, par exemple. Et pour le coup, pour Second Wind, tu vois, je trouvais qu'il y avait un petit peu moins de...
De ping-pong, enfin de retour, des choses.
Voilà, un petit peu moins de ping-pong. Ça n'a pas empêché que le projet soit réussi, tu vois, visuellement, moi, ça me plaise, etc. Mmh. Mais je trouve aussi que peut-être ça tendrait à avoir plus de... Ouais, peut-être plus d'échanges avec les artistes et aussi une collaboration un petit peu plus directe qui soit toujours encadrée, bien entendu. En l'occurrence, là, avec la personne qui a fait le clip d'animation et la cover... Il y aurait peut-être pu avoir plus de liens à faire.
C'est intéressant ce que tu dis parce que ça démontre bien que donc le label est là pour accompagner l'artiste, mais qu'il y a certainement autant de façons de faire que de label quasiment. Enfin, j'imagine qu'il y a un peu des codes, des normes, etc. dans l'industrie, mais qu'il y a des identités vraiment propres à des labels, des façons de travailler, etc. J'imagine c'est ce que recherche aussi un artiste quand il signe avec un label. Alors, j'imagine quand un artiste signe, il n'a pas toujours la possibilité de savoir exactement ce qui se fait ailleurs, etc. Surtout en début de carrière, c'est pas évident. Tu prends un peu peut-être le premier qui débarque. Mais ensuite, si t'as la chance de pouvoir un peu choisir, je suis sûr qu'il y a des labels qui... Vous, par exemple, est-ce que, en tant qu'amateur de musique, tous les trois, là, même je pourrais m'inclure dedans, je pourrais le dire si vous voulez, mais je suis sûr qu'il y a des labels qui vous ont marqué ou que vous avez suivi leur production parce que parfois, il y a des trucs qui sont dégagés par un label qui vont au-delà
bien
juste...
Bien sûr
de... Ouais.
Pour moi, par exemple, Division Recordings.
Ok, je connais pas.
C'est un label chez qui il y a Noisia,
okay.
Entre autres, tu vois. Mmh. Et genre, tous les trucs qui sortent de là, en termes de sound design, c'est une dinguerie, tu vois. Mmh. Pour moi, c'est vraiment ceux auxquels je pense. C'est genre, t'as Joe Ford, Former, tu vois, des bails comme ouais. ça. Enfin, c'est très niche, tu vois. Mais Former, par exemple, c'est incroyable. Et c'est l'école, le Noisia, etc. Et c'est tout ce qui sort de chez Division Recording, ça a ce genre de patte, quoi, tu vois. Mmh.
C'est l'avantage du... Enfin, en fait, c'est le rôle du label, c'est de... du coup, vu que tu kiffes ce label, tu vas... potentiellement aimer tout ce qu'ils vont sortir.
Mmh.
Et
ouais, voilà.
Tu vas te dire, ah bah tiens, vu que c'est Divisions, je vais potentiellement aimer ce qu'ils vont sortir.
Et ouais, est-ce que ça, du coup, c'est toujours vrai? Ce truc de. Parce que je sais pas, par exemple, j'ai pas spécialement d'exemple là, mais est-ce qu'il y a pas des labels aussi qui vont aller explorer d'autres styles, je sais pas, peut-être un brain feeder, ce genre de truc, même si ça reste un peu future musique, jazz, fusion, je sais pas trop. J'ai quand même l'impression que chaque release est assez indépendante.
Après, tu peux avoir différents genres, mais un même niveau de qualité.
Ouais.
Donc, aussi on
ah bah c'est sûr que oui.
Ouais, je pense à pardon, je t'interromps Bastien, je te laisserai continuer après. Vas-y. Mais je réagis tout de suite à ce que tu viens de dire là. C'est, je pense à XL Recordings par exemple, qui en fait peut avoir plein de pattes sonores différentes, plein d'artistes qui fondamentalement sont différents, pardon,
comme Adele par exemple.
Ouais, mais
qui est sortie sur XL
au début. Ouais et qui je sais pas si elle est encore. Non,
je sais pas. Ouais. Je sais pas du tout, mais je sais qu'elle a commencé sur
XL. Mais ils avaient tous quand même une certaine de cette manière, ils apportaient tous un truc à leur moment, à leur époque. Tu sais, ils étaient tous un peu en rupture, ou en tout cas il y avait un truc on savait qu'on allait écouter un artiste qu'on n'a pas déjà entendu ces 4-5 dernières années, tu vois. Et il peut y avoir un truc comme ça aussi qui se dégage du label parfois, non pas c'est le même genre musical, mais juste ben nous les gars, on est à la pointe, on va vous dénicher des trucs par exemple, tu vois.
C'est peut-être le dénicheur d'artistes, le fameux que moi, enfin, moi, les labels qui m'ont marqué, souvent, c'est les, le roster, en fait, que j'ai kiffé. Tu vois, je me dis, putain, là, il y a Flying Low, il a sorti ça, et Thundercat. Enfin, tu vois, c'est ce genre de nom, par exemple. Peut-être que, ouais, c'est aussi le roster.
Chez les Français, on pourrait citer Headbanger.
Ouais, classique.
Qui ont sorti beaucoup d'artistes. Ils ont une touche aussi. On pourrait penser tout de suite à Justice ou Sébastien. Ils ont sorti des projets beaucoup plus pop. On peut penser à Mid récemment, qui est chez Headbanger et qui n'est pas vraiment dans le même panier que Justice ou.
Mais ça, je trouve que c'est cool. Enfin, de toute façon, c'est pour moi, c'est primordial. Tu peux pas avoir un label où c'est stick à un truc en particulier. Tu vois, il faut que ça soit un minimum ouvert vers d'autres univers, même sans aller dans des extrêmes.
Mais la qualité d'Headbanger, du coup, elle ne vient pas forcément du genre musical, mais plutôt de l'attitude qu'ils vont mettre autour d'un projet qui va sortir de « Ah bah c'est de l'électro, ah bah c'est du rock » ou quoi que ce soit. Mmh. Ils vont mélanger les styles, mais à la fin, ils vont bosser pour que leurs artistes deviennent des artistes, des personnalités que tu vas aimer. Là, j'ai vu récemment la promo qu'ils ont fait pour Mid et Mac DeMarco. Donc déjà, il y a un son de Mac DeMarco sur Headbanger en featuring Mid. Donc on pourrait se dire déjà, ils essaient de penser un peu plus loin que juste l'artiste électro comme on le connaît, en faisant justement des croisements entre les genres. Et ils ont développé tout un univers autour d'un seul morceau avec c'était des déménageurs, voilà, qui ils ont fait un petit dessin animé avec des déménageurs qui était un peu défoncé, si j'ai bien compris la vidéo, c'était assez hilarant.
J'ai pas vu, pour le coup.
Et voilà, je pense qu'ils s'amusent et ils prennent beaucoup de plaisir à développer un artiste et à lui donner une image. Et moi, sur les labels français, c'est vrai qu'Headbanger m'a beaucoup inspiré quand j'étais plus jeune, même avec juste Justice, toute l'image qu'il y avait derrière ce label, où on pourrait citer... Enfin, je pense que pour pas revenir un peu sur l'actualité, je pense que les premiers qui ont fait d'eux-mêmes une marque, c'était les Daft Punk aussi, qui était managé par Pedro Winter, qui est du coup le boss du label Headbanger. Et je pense qu'il y avait déjà cette idée dans les années 90 de créer une marque avec l'artiste et que les gens soient, voilà, après le label en profite, l'artiste en profite. Je pense que c'est une démarche très intéressante.
Il y a un truc aussi particulier avec Headbanger, mais qu'on retrouve chez d'autres. Alors, je ne sais pas s'ils sont précurseurs, mais en tout cas, je pense qu'ils avaient une particularité dans le paysage français, c'est sûr. C'est d'être vachement dans le mélange des formes d'art. C'est-à-dire que le visuel avait une importance énorme et ils avaient surtout des artistes visuels attachés, un peu, rattachés, tu vois, au label qui, c'était pas genre pour chaque projet, par exemple, on va bosser une DA particulière. Non. Si t'avais un mec qui, sur l'ensemble du label, pensait un peu l'ADA, il y avait une cohérence, etc. Et ça donnait une patte, en fait, tout de suite. Et ça, j'ai l'impression que c'était pas un truc qui se faisait énormément non plus, tu vois.
Ben, c'est vrai qu'on suit un peu l'exemple de temps en temps chez Chillop. Du moins, j'essaye de travailler avec des illustrateurs récurrents pour que, à partir d'un moment, les gens, donc Geoffrey, dont on parlait précédemment, qui a travaillé avec Arnaud, pour que les gens, quand ils voient ce style artistique, pensent à Chillop et se disent tiens, c'est du Chillop, donc ça va être une bonne qualité. Parce qu'on, voilà, on n'est pas les seuls, on va pas se mentir, on n'est pas le seul label de chill-hop, jazz, lo-fi, hip-hop aujourd'hui sur le marché. Donc, il faut aussi sortir son épingle du jeu en tant que label pour que les gens, quand ils voient le visuel, ils se disent « Ah bah tiens, oui, c'est chill-hop ».
Ah bah, il faut bien l'avouer, désolé, on va parler de la concurrence, mais par exemple, on sait que l'image de Chilled Co., donc, qui est un autre label un peu dans votre style musical,
français
en plus, tout de suite, on voit cette fille qui est en train de travailler, etc. Elle a marqué, par exemple. Vous aussi, d'ailleurs, c'est
l'anime girl.
Oui, absolument. L'anime girl, c'est un truc de fou. Vous avez aussi le raton laveur qui, quand même, a marqué aussi les esprits. Mais on voit bien, effectivement, qu'il y a des trucs. Je sais pas si c'est la simplicité qu'il faut, je sais même pas si la qualité fondamentale, elle est liée, tu vois, à comment ça s'imprègne. Mais il y a des trucs qui arrivent à s'imprégner, effectivement, chez les gens. Mais Michel, il est fort pour ça aussi. Il arrive à trouver les trucs comme ça qui vont interpeller. Comme ça.
Comment ça?
Michel, c'est une marque, lui tout
non,
seul.
Non, mais à travers. Non,
trop
mais c'est
de
vrai.
Musique, c'est une marque.
Tu sais, ça peut être une phrase, un visuel, un truc, tu sais, qui t'accroche en fait et qui tu t'arrêtes et c'est pas lié forcément au boulot passé sur le truc, tu vois, ou genre t'as passé 10 ans à peindre le truc ou j'en sais quoi. C'est juste trouver la bonne idée et surtout dans l'air du temps, les attentes du moment, etc., la communauté que tu vises et qu'il y a un truc qui prenne comme ça, tu vois. C'est un truc que tu réfléchis ou tu fais à l'arrache comme ça?
Ah non, mais en fait, moi je pense qu'on retient ce qui marche et on voit pas ce qui marche pas. C'est-à-dire que sur un truc qui m'a buzzé, j'aurais fait 100 tweets de merde, tu vois. Donc pour moi,
tu as tendance à s'attarder sur les réussites et non ses échecs.
Exact. Mais moi aussi, je fais pareil. Hein. Moi, mes échecs n'existent pas. Je ne suis que la somme de mes réussites.
Oh là, ça y est, on part en podcast philosophique. Moi, je suis prêt.
C'est l'heure.
Podcast Ego Trip surtout.
Ouais, grave.
Zizi Kaka mixtape. C'est un mixtape de merde.
Tu devrais avoir un petit bouton là avec l'annonce pour le.
Grave. Ah ouais,
il faudrait qu'on ait un clavier pour balancer des sons. Il y a plein de mecs qui font ça, on peut faire la zizi caca. Je voulais quand même vous demander, les gars, parce que bon, je l'ai rapidement cité tout à l'heure, mais sur les aspects juridiques, financiers, etc. Ce que je veux dire par là, c'est que justement, quand on est indépendant, typiquement, il y a plein de questions qu'on se pose, et la question de la thune, la question du juridique, etc., c'est là où t'as du mal à trouver le bon intervenant, tu vois, le bon intermédiaire. Est-ce que justement, c'est le label qui peut apporter ça?
Est-ce que je peux répondre?
Oui.
Moi, je trouve ça cool. Je trouve ça cool parce que, en vrai, je trouve que tout ce qui est rapport à l'argent, quand tu sors une release sur un label, en tout cas avec Chillop, c'est tout à fait transparent, voire invisible, et c'est cool parce que il y a pas de question de ça va te coûter tant nanana. Tu peux arriver avec des ambitions. Voilà. Après, ça dépend aussi à quelle échelle. Mais voilà, il y a des moyens qui peuvent être débloqués pour tourner une vidéo. Comme c'est souvent le cas chez Chillop, les moyens par exemple qui sont aussi utilisés pour faire une illustration, aller presser des vinyles, etc. Ça, c'est des choses que tu vas absolument pas voir. Et ça, je trouve ça appréciable parce que du coup, tu peux te concentrer sur ta proposition musicale et pas te prendre la tête avec des questions d'argent. Et souvent ensuite, après, ça va être redistribué sur ton premier relevé de royalties. Où tu vas peut-être avoir des frais qui vont être partagés entre le label et toi. Voilà. Et donc, du coup, c'est appréciable.
Juste histoire de royalties, de frais, parce que ça, c'est peut-être Bastien qui peut nous en parler, mais toi, tu donnes un pourcentage de ce que tu gagnes quand même au label. Enfin, comment ça se passe? C'est quoi exactement le principe? Parce que, OK, le label, parfois, t'apporte des moyens, mais évidemment, il faut bien qu'il bouffe aussi le label, tu vois. Enfin, il faut bien qu'il se rémunère, etc. Donc, comment ça se passe?
Eh ben, écoute, nous, on a un deal en général qui s'approche du 50-50.
Okay.
Bien sûr, un label, ça a un coût. Enfin, il y a des employés, il faut qu'on mange, il faut qu'on investisse, il faut qu'on emploie des nouvelles personnes. Donc, c'est un business avant tout, il ne faut pas l'oublier. On récupère 50% des royalties et qu'on partage avec eux. Avec l'artiste. Nous, après, sur ces 50%, il faut aussi qu'on le redistribue donc au distributeur dont on parlait tout à l'heure, qui lui prend une marge. Après, voilà, il faut qu'on investisse dans des vinyles, dans du merch, des choses comme ça, qui, bien sûr, génèrent de l'argent à la fin, mais voilà, il faut quand même un fonds pour investir tout ça. Et donc, il y a quand même. L'artiste, quand il signe chez nous, il a un contrat, c'est écrit noir sur blanc. On fait 50-50, mais on s'occupe du marketing et les dépenses liées au marketing sont recoupées sur les royalties des artistes aussi. C'est un peu du jargon, mais voilà, en fait, l'artiste participe quand même aux dépenses de son propre projet, mais nous, on fait en sorte qu'il soit...
Vous avancez les frais, en fait, quelque part.
On avance tous les frais et on fait en sorte que tu aies le plus de visibilité, donc le plus de fans et de plays, donc que tu fasses le plus d'argent possible. À la fin, c'est quand même le but d'un artiste. Quand il signe dans un label, c'est on va pas faire une langue de bois, tu vois, il faut quand même qu'il mange aussi, l'artiste.
Bien sûr, être écouté, mais si en plus tu peux prendre des billets au passage, évidemment.
De toute façon, c'est corrélé. Si tu veux faire, enfin voilà, le truc numéro un, comme je disais tout à l'heure, c'est de faire le maximum de vues parce que t'as envie le maximum de personnes t'écoutent et indirectement, forcément, tu vas générer de l'argent sur ces vues-là aussi.
C'est ça.
Et du coup, parce que t'es capitaliste.
Parce qu'il n'y a pas que les royautés non plus dans les revenus de l'artiste. Est-ce que sur les autres types de revenus aussi, comment ça se passe
sur le merch, sur le vinyle,
sur les droits. Mais imaginons même, je sais pas. Est-ce que vous êtes propriétaire des masters, par exemple? Est-ce que tu vois ce genre de choses?
Il me semble qu'on est propriétaire des masters. Ça c'est...
Donc vous êtes officiellement producteur des morceaux, c'est ça que je veux dire.
On produit les morceaux, on signe les morceaux en fait. Donc on a un contrat sur les morceaux, je sais pas de combien d'années. Arnaud, peut-être que tu sais.
Moi pour le coup, j'avoue que je ne pas trop connaître les détails à ce niveau-là.
Voilà, faut lire les petits caractères en bas du contrat.
je n'ai rien le droit de dire en fait. On m'a baïonné.
Tu lis ton contrat tout de suite.
Grave, putain en fait, qu'est-ce qu'ils ont mis. Non, mais en tout cas par contre, Chillop a un côté Chillop Publishing où ils font aussi éditeur. Ça, pour le coup, oui, ça, c'est le cas.
Pour ceux qui nous regardent, nous écoutent, l'éditeur, c'est celui qui va gérer, qui va faire en sorte, par exemple, que lorsqu'il y a un auteur, qui ait des reprises, pourquoi pas, de son morceau qui soit faite, de s'occuper de la synchro, c'est-à-dire de le mettre, si on peut le mettre dans des séries, dans des publicités, ce genre de choses, etc.
Donc, dans
les jeux vidéo. C'est un truc que vous faites aussi, donc.
Exactement. Donc, Chillop Publishing. Donc c'est pour ça qu'aussi on essaie de trouver des nouveaux moyens de générer de l'argent pour les artistes. En faisant des partenariats avec des jeux vidéo, des publicités, des films, et ça peut même être des youtubeurs. Donc nous on a quand même un système un peu libre de création. Donc on veut donner la possibilité aux créateurs de YouTube d'utiliser notre musique gratuitement. Donc ça c'est un parti pris forcément, parce que on peut penser qu'on perd de l'argent en donnant notre produit aux gens pour qu'ils l'utilisent et qu'ils fassent de l'argent avec. Mais d'un autre côté, ça nous donne la visibilité. Il y a du bouche à oreille, les gens parlent de nous, les créateurs de contenu parlent de nous dans leur contenu, dans leur description YouTube, on est crédité. Donc ça, c'est une contrepartie en fait qu'on établit. C'est un deal qu'on établit avec les gens. Donc, on a aussi cette partie non monétisée, mais qui est un retour sur le long terme, voilà, de bouche à oreille et de communication. C'est un peu du marketing aussi.
Et sur le juridique, justement, je sais pas, est-ce que vous bossez avec un artiste? Il vous envoie des trucs, lui n'a pas conscience qu'il a utilisé plein de samples, c'est vous qui lui mettez un stop, vous expliquez, parce que tu peux pas faire non plus n'importe quoi, mais tout le monde le sait pas forcément. Donc est-ce qu'il y a aussi un accompagnement de ce genre-là au sein d'un label?
Justement, donc ça c'est le côté aussi, quand tu deviens un peu plus vu et plus écouté, et ben tu t'exposes à plus de risques. Je pense que Arnaud pourra répondre aussi de son côté.
Oui, moi j'ai des choses à dire sur le juridique. je te laisse y aller.
Donc pour t'as ramassé, c'est ça, Arnaud?
Ouais, j'ai ramassé. Mais j'en parle après.
Ouais, vas-y.
Mais pour l'histoire de Chillop, donc, et même du hip-hop, je pense que c'est quand même basé sur une culture de sample. Et c'est, voilà, c'est une culture qui s'est développée en s'inspirant de plein d'autres cultures et en remaniant les codes des genres, voilà, des inspirations. Et je pense que c'est ce qui fait que ce genre est si riche. Mais aujourd'hui, avec Chillop, on a pris la décision de travailler avec des artistes qui étaient des musiciens à 100%, donc qui n'utilisaient pas de samples, justement pour se protéger, nous, en tant que label, parce que voilà, des samples très, très connus, quand la maison de disques, dont on parlait tout à l'heure, quand la maison de disques se rend compte qu'on a utilisé leurs morceaux sans leur demander, ils peuvent nous taxer, ils peuvent demander de récupérer toutes les royalties, etc. Donc nous on essaie de travailler avec des artistes maintenant qui sont indépendants à 100%, ou de travailler avec des samples qui sont clearés, ou de travailler plus avec des musiciens au terme plus classique du sens, et des chanteurs, et voilà, ils peuvent aussi on a sorti des albums des artistes qui bossaient avec des guitaristes. Mais au lieu que le guitariste joue sur les morceaux, le producteur samplait directement la guitare qui était jouée pour lui. Donc, il y a vraiment un effet autosuffisant. Et du coup, pour le publishing et tout, s'il y a des samples, ben c'est pas possible.
T'as dit un truc intéressant, t'as parlé de clearer les samples. Il faudrait peut-être le préciser. Peut-être que Arnaud, tu peux reprendre la main justement sur ton expérience et puis nous expliquer aussi ce que c'est clearer un sample, pour ceux qui ne le sauraient pas.
Oui, carrément. Et bah, est-ce que tu veux que j'explique d'abord le clearage sample? Parce qu'on dit comme ça, le clearage. Ok. Bah, clearer un sample, du coup, ça va être aller contacter la personne qui a les droits. Donc, souvent, c'est le label ou le manager directement pour, du coup, dire voilà, on a utilisé un bout de votre musique, on veut ensuite la mettre sur les réseaux. Comment est-ce qu'on s'arrange? Et souvent, là, il y a un deal qui est créé. Il y a rien d'uniforme. Hein. Ça peut être tout et n'importe quoi, un pourcentage, un montant fixe, voilà, peu importe. Mais en tout cas, du coup, la maison de disque ou le label te donne les droits d'exploitation exclusifs pour ce son-là.
Et c'est déjà arrivé aussi que, par exemple, si tu rejoues le truc, par exemple, parce que
alors après,
si tu rejoues, t'as plus les interprètes qui sont dans le tas, t'as plus l'artiste, mais par contre t'as l'auteur théoriquement, parce que c'est quand même sa composition, quoi.
Mais alors, t'as pas fait une vidéo là-dessus est-ce que c'est pas le moment de renvoyer vers les vidéos?
Absolument.
Alors attends, je montre vers quel côté?
Absolument. Regardez l'épisode précédent
de
DLT. Oui, faites-le. Parfait. Je vous mettrai. Bon. Non, mais effectivement, sur les questions
des droits. Ça, cette question, moi, de toute façon, faut d'ailleurs aussi que je regarde cette vidéo parce qu'en vrai, je n'y comprends rien. Est-ce que si on rejoue, est-ce que ça marche? Est-ce qu'il faut 3 secondes? Est-ce que nanana? Ça a toujours été un bordel. En tout cas, moi, ce que je voulais dire par rapport à l'aspect juridique, et là où Chillop m'a pas mal sauvé la vie, j'avoue, par rapport à Soulful, vu que le morceau a explosé, il y a eu du positif comme du négatif. C'est-à-dire qu'il y a eu énormément de gens qui ont utilisé mon morceau sans aucune légalité, plus ou moins. Mm-hmm. Et vraiment, il y a un moment où c'était littéralement toutes les semaines où on tombait sur des releases Spotify où ça avait carrément rippé mon morceau et ça avait chanté par-dessus et c'était dans des albums, tu vois. Et en plus, moi qui suis de base ouvert au sample, tu vois, j'ai jamais eu trop de problèmes avec ça, mais là c'était vraiment grave, quoi. Enfin, toutes les semaines, déjà c'est du vol. En plus, souvent c'était vraiment pas de qualité et t'as un peu l'impression je sais pas comment dire ça, mais qu'il y a pas de respect, tu vois, et c'est dommage. Et du coup, à Chillop, il y avait une personne qui gérait beaucoup ça pour, du coup, envoyer des DMCA pour supprimer ses releases ou, du coup, plus pour entrer dans des négociations quand soit moi, j'appréciais le son ou quand c'était quelqu'un de plus gros, on se disait, peut-être qu'on va plutôt rentrer dans des négociations plutôt que juste supprimer parce que, voilà, on n'est pas non plus là à tout vouloir supprimer. Et récemment, là, il y a eu plusieurs cas, mais récemment, il y a eu l'utilisation par 21 Savage et T.I. sur un de leurs morceaux du dernier album, là, il y a une partie de Soulful de ce morceau qui a été utilisée sans aucun accord préalable, sans aucun sample clearance. Et c'est des artistes qui sont quand même énormes aujourd'hui, tu vois. Et tu te dis, putain,
j'allais te dire, c'est flatteur pour toi que tu sois utilisé par des mecs pareils, mais s'il n'y a même pas eu de contact, c'est fou. Ouais.
Voilà, moi, j'ai pas trop de problème avec ça, mais il y a quand même une ambivalence entre, putain, c'est cool et, il y a eu aucun contact de fait et ça a été vraiment rip comme ça, tu vois. Et tu te dis, mais, comment c'est possible par des acteurs aussi gros
Est-ce qu'ils ont été sur YouTube MP3?
Mais tu sais que ça m'a fait trop rire parce qu'en regardant dans les crédits du morceau, il y avait 4 producteurs, mec. Et du coup, on s'est dit, il y en a un, il a trouvé le sample, il a fait YouTube MP3. Il y a un deuxième, il l'a mis sur Ableton. Le troisième a fait les drums. Et enfin, tu te dis 4 producteurs pour un sample de guitare et une batterie trap dessus. Enfin, c'est n'importe quoi.
Et au final,
c'est toujours en négociation. Ça prend un temps fou.
Tu disais, ils l'ont rejoué?
Je demandais, est-ce qu'ils l'ont rejoué le son un peu? Ou c'était
Non, ils ont rip la guitare, ils l'ont samplé comme de centaines d'autres gens l'ont fait de la même manière. Et c'est ça aussi qui est un peu déprimant, tu vois, c'est que, après, tu peux aussi rapporter ça au sample à l'époque, tu vois, il y avait un sample qui marchait bien, qui était cool et que tu le retrouvais dans plein d'instrus différents. Mais là aussi où je fais un peu la différence, c'est que je suis aussi un producteur, tu vois, et j'ai toujours un peu du mal avec le fait de sampler d'autres producteurs. Pour moi, c'est un truc qui devrait pas trop se faire, tu vois.
Et en tout cas, des mecs actuels, parce que t'as aucun problème à sampler d'autres morceaux. Qu'est-ce qui te pose problème exactement? Qu'est-ce que tu t'interdis un peu de sampler
Je trouve quand t'es dans la production, je trouve ça bizarre d'aller récupérer, tu vois, un bout de son sur un autre producteur. J'ai toujours trouvé ça un peu étrange. En tout cas, si tu lui demandes pas son accord, et enfin, tu vois, je sais pas si par exemple demain j'ai fait un morceau avec un bout d'un morceau de Pendrez. Je vais pas le mettre en ligne sur Spotify et dire, écoutez mon nouveau son. Je vais aller contacter la personne et lui dire, mec, j'ai fait un truc avec, écoute, est-ce que t'aimes bien? Essayer de trouver un accord. Mais là, c'est fait.
Et pourtant, tu pourrais le faire avec un truc qui est sorti, j'allais dire un James Brown, comme tellement il a été samplé comme pas possible. Bon, en l'occurrence, il est décédé. Mais tu vois, avec un mec vivant, tu aurais moins scrupule à le faire, mais un producteur actuel, ça t'embête? Enfin, c'est ça qui m'interroge.
Ouais, en fait, c'est comme si tu... enfin, pour moi, c'est un peu genre comme si tu resamplais quelque chose, tu vois, qui a déjà été samplé quelque part, tu vois, mais après, la limite, elle est toujours compliquée, surtout
que, bah, comme disait Bastien. C'est le hip-hop, en fait, qui te pose
problème. Pour moi, c'est un peu ce truc-là, tu vois. Mais d'un côté, je le fais aussi, enfin, voilà, tu vois, il y a aussi ce truc-là, donc c'est paradoxal, quelque part. Mais je pense que c'est aussi parce que, comme disait Bastien, maintenant on n'utilise plus de samples. Moi, à la base, ma musique, elle a toujours été avec des samples, etc. Et maintenant, tu vois, je fais de la musique sans sample. Et c'est peut-être aussi pour ça que les gens ont commencé à me sampler et à utiliser ma musique. Et du coup, ouais, c'est toujours paradoxal, tu vois. À la fois, ça me fait plaisir que ça soit utilisé, mais à la fois, je devrais aussi avoir un peu ma part du gâteau.
Et puis, je pense qu'il y a un truc important, c'est ce qu'on dit justement dans le dernier épisode. Allez, regardez.
Ah,
c'est que... quelqu'un réutilise votre musique. Est-ce que, et il n'en a pas parlé avec vous avant, qu'est-ce que tu fais? Est-ce qu'effectivement, t'attaques tout de suite? Est-ce que tu discutes? Dans tous les cas, tu discutes. C'est ce qu'on dit dans l'émission, évidemment. Mais ensuite, c'est surtout, c'est en rapport, en fait, avec le succès du truc et éventuellement l'argent que tu aurais le droit de réclamer parce que si ça a été un succès, etc. Donc, je pense que, là, c'est pas pour parler que du fric, mais c'est de dire que même toi, dans ton rapport, je pense à quand tu samples les autres. Alors, vous allez me dire, Michel, ça peut être intéressant aussi ta vision. Vous allez me dire, mais je pense qu'il y a vraiment un truc de, OK, attendez, qui je sample? Est-ce qu'il a déjà gagné beaucoup d'argent? Enfin, moi, en tout cas, moi, j'aurais tendance à penser comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, quand c'est la méga resta américaine qui me sample et qui m'en parle même pas, là, ça me fait un peu mal au cul parce que.
Et en fait, il y a aussi autre chose.
Blindé, tu vois, il pourrait un peu partager, tu vois, tout simplement, quoi.
Et il y a aussi autre chose.
C'est pour ton côté de gauche?
Probablement.
Moi, il y a aussi un truc que je trouve un peu grave, tu vois, c'est que ces mecs-là, et du coup, c'est pas les premiers, il y a des centaines d'autres mecs qui l'ont fait, ils ont samplé un morceau à 41 millions de vues sur YouTube. Enfin, je sais pas si tu te rends compte de ça, mais moi, ça me bute, tu vois, parce que moi, le nombre de fois où j'allais sur YouTube, je cherchais mes samples, ça m'est arrivé plein de fois, et c'est pas un problème. Tu dis comme tu veux, vinyle, YouTube, etc. Et qu'il y a des moments où j'arrivais sur un son où il y avait 1 million, 2 millions, tu vois, je me disais, bon, ça a sûrement déjà été fait, tu vois, je vais peut-être aller fouiller autre part. Et là, tu te dis, non, il y a pas de réflexion de fait. On prend les 4 mêmes secondes que tout le monde a pris et on fait notre truc avec, tu vois. Et
après, ça pour moi, c'est ton éthique à toi.
Pour moi, c'est, voilà, ça touche à mon éthique et je me dis, à la fois, je suis content qu'il l'ait fait, tu vois, j'apprécie. Et à la fois, je me dis, putain, même ces mecs-là, ils sont flemmards à fond et ils ont pas fait un travail de recherche, tu vois.
Il faut le prendre comme un hommage aussi. Pense.
Ouais, voilà. Ouais, quelle est la limite à partir de laquelle, toi, Arnaud, tu te dis, moi, c'est 1500 balles. Moi, s'il y a 1500 balles à se faire, en dessous de 1500 balles, j'y vais pas. Mais à 1500 balles, je vais te chercher par le callback et je dis, oh.
Non, moi, honnêtement, c'est même pas une question d'argent, c'est plus une question de, entre guillemets, de rendre un peu l'hommage à, enfin, tu vois, quand tu samples un morceau qui a autant fait de vues, et tu le fais d'une façon obvious où tu sais que les gens vont le reconnaître de base, je trouve ça dommage de pas dire que ça vient de là, tu vois, parce que de son, tu vas déjà te prendre un espèce de bashing de gens qui vont dire hey, il a utilisé ça, ils ont pas eu les droits, nanana, enfin tu vois, c'est, pour moi, c'est pas logique. Mais là, en l'occurrence, après, on va pas trop rentrer dans le débat, mais ils étaient pas au courant, et c'est souvent le cas aussi, tu vois, c'est souvent le producteur qui va utiliser le sample et les gens derrière qui collaborent avec, etc., sont pas au courant qu'en fait, c'est un sample connu.
Bastien, tu m'avais raconté une histoire un peu dans ce genre-là qui vous est arrivée avec Chillop. Raconte-nous rapidement.
Une histoire macabre.
Bah, tu sais, c'est-à-dire que il y avait un artiste qui vous avait envoyé des morceaux, ils vous ont dit non, il est clean, et puis en fait, ça s'est avéré pas si clean.
Exactement. Oui, parce qu'il y a des producteurs qui oublient tout simplement. Quelqu'un leur a envoyé une démo qui a été rejouée, trafiquée. Du coup, ils reproduisent avec, ils font le morceau, et puis 3 ans plus tard, ils disent « Ah tiens, peut-être que le morceau était pas si mal. » Du coup, ils vont l'envoyer au label. Mm-hmm. Le label va l'écouter. Et nous, bah, quand on demande aux artistes « Est-ce qu'il y a un sample ?» Eh ben, ils vont nous dire que non. Donc nous, on va les croire. On va pas les accuser. Mais il se trouve que c'était un accord de guitare qui a été enregistré sur une session acoustique par tel artiste. Mmh. Et à la fin, c'est la faute de personne, sauf que ça devient notre problème à nous. Parce que si quelqu'un doit être pointé du doigt, c'est nous, parce qu'on n'a pas pu, filtrer correctement. Donc, on a dû enlever tout simplement le morceau le même jour, le jour de la sortie. C'était assez triste.
Oui, c'est vrai que d'ailleurs, ça, c'est important à dire, mais il y a plusieurs releases du coup, qui ont viré des plateformes, dont une a... J'avais fait un des premiers EP que j'ai sorti, c'est Chillop, qui était full sample pour le coup. Et après, plusieurs années de réflexion, ils ont dit bon, on va l'enlever. Toi, tu es libre de le réuploader quelque part si tu as envie. Moi, j'ai pas choisi de le réuploader.
Et comment ça se passe ça, c'était le discours au niveau de l'argent à ce moment-là. Juste parce que Genre ça, toi tu poses les morceaux, imagine ils sont là pendant 2 ans, ils génèrent X euros de revenus et on te dit ah finalement c'était pas clean, on va le retirer. Comment ça se passe? Tu dois rendre l'argent ou...
Non, c'est rien passé. Ça a juste tout a été retiré des plateformes, donc maintenant cet album ne génère plus rien, moi je touche plus dessus. Par contre voilà, comme je disais, peut-être Salman tu voulais réagir, mais Chilop m'a dit voilà, nous on va devoir l'enlever de notre catalogue, par contre toi tu as tout à fait le droit de réuploader ton album de ton côté.
Bon, c'est pas parce que
j'imagine qu'ils ont aussi je crois que j'ai eu un avenant du contrat ou quelque chose qui a dit voilà, maintenant les droits te reviennent encore, enfin te reviennent à nouveau et tu peux le sortir toi-même. Et prendre les risques qui vont avec.
Ça me paraît une approche plutôt saine, en tout cas, de dire non, nous on décide de pas le faire, par contre après toi tu fais ce que tu veux, quoi. Mmh. C'est ça,
je sais pas, c'était un vieil EP, je me suis dit bon, c'est pas c'est sortir maintenant.
En termes de, voilà, si on veut être, avoir un peu de conviction, si on rejette tous les morceaux qui ont des samples, mais qu'on a quand même une librairie de 500 sons, ou peut-être 200 sons qui contiennent des samples. Ben, du coup, on peut pas, comment justifier qu'on soit clean à ce niveau-là. Donc, si on veut justement être en tant que label, un label clean qui bosse qu'avec des morceaux enregistrés de manière originale et complètement joués, il faut que, qu'on se défasse de quelques pépites qui contiennent des samples qui n'ont pas été clearés, justement.
Ou alors, du coup, qu'on fasse de la clearance, mais pour l'instant, ça n'a pas été fait, je crois.
Ça dépend du sample aussi, c'est ça. Si tu dois clear un sample de... Je sais pas, je saurais même pas citer un artiste. Peut-être que tu peux me citer un artiste que tu as samplé.
Oui, je sais pas si je dis le nom, parce que ça y est, ça va être officiel, j'aime pas ça. Non, mais moi récemment, par exemple, j'ai samplé du Youssef Days, son dernier album live d'ailleurs que je recommande, que j'ai adoré. Mm-hmm. Et pour le coup, je suis satisfait du morceau et c'est la première fois où je me dis, franchement, j'en suis allé peut-être à contacter le manager ou voir voilà ce qui est possible de faire pour justement avoir les droits de m'en servir, tu vois. Parce que de toute façon, je vais jamais le balancer sur les plateformes comme ça. Mm-hmm. Parce que c'est presque un hommage, tu vois. Vraiment, c'est samplé de partout et j'essaie de reconstruire quelque chose. Mais je vais essayer de contacter et voir ce qu'on me répond, en espérant que ça soit positif.
Youssef, si tu nous écoutes.
Youssef, putain, le GOAT.
Je vous propose de passer à une toute dernière partie. On va s'arrêter un peu quand même sur Chilop en particulier, parce que bon, c'était en fil conducteur un peu de toute notre discussion. On a parlé évidemment de votre expérience avec ce label, de Chilop. Mais il y a des spécificités qu'on n'a pas encore vraiment abordées, et notamment le fait que... On parlait tout à l'heure qu'il est important qu'un label devienne une véritable marque, que ce soit une étiquette. Tout de suite, ça dégage quelque chose. Mais parfois, si ça prend le dessus sur les artistes eux-mêmes, ça peut poser problème. Et d'une certaine manière, alors Bastien, tu vas me dire, et aussi Arnaud, si vous partagez ce constat, mais on le voit quand même que l'univers de la musique lo-fi, ou en tout cas du hip-hop instrumental, est dominé par des playlists, par des labels, par des noms comme ça, mais qui éclipsent peut-être aussi un peu les artistes, leur individualité, leur image. Est-ce que vous partez du même constat et qu'est-ce que vous en pensez?
Moi, je dirais que il y a beaucoup d'artistes qu'on ignore dans tous les genres musicaux. Donc, je pense qu'à un moment... Je sais plus quand est-ce qu'on disait ça, que à un moment tu retiens que ce qui est bien, tu vois. Donc nous, on fait des playlists qui sont très garnies avec des centaines de morceaux plus ou moins similaires. Voilà, si on n'est pas dedans, on va penser que c'est plutôt la musique de background. On pourrait penser la même chose du jazz. Quand t'écoutes une playlist de jazz, tu dis pas tiens, ça c'est Miles Davis. Enfin, si, tu vas te le dire quand, mais tu vas devoir vérifier, tu vas devoir voilà, c'est un peu le problème de la musique instrumentale. Moi-même, je confondais Sia et Rihanna juste à cause de leur voix. Mais à un moment, voilà, tu reconnais leur univers parce que tu sais à quoi ressemble Rihanna, tu sais à quoi ressemble Sia, plus ou moins. Tu connais son univers graphique aussi. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, Sia écrivait des chansons pour Rihanna aussi. Donc c'est pour ça qu'elles ont une musique.
Pendant longtemps, elle a fait ça.
Une sonorité assez similaire. Mais pour revenir sur Chilop, nous, justement, on se bat pour construire des artistes, construire des projets. pour justement sortir de ce côté grande consommation de on prend la musique, on la jette.
Parce que même si tu m'as dit oui, il y a d'autres exemples, etc., tu es quand même d'accord pour dire que c'est un des problèmes auxquels vous vous heurtez, quoi.
C'est un problème auquel, en fait, on était un peu victime de notre succès. C'est que le genre, enfin, le genre a été un peu victime de son succès parce que beaucoup plus de personnes ont voulu en produire parce que ça demande pas beaucoup de moyens techniques pour le faire. Même pour mettre sa musique sur Spotify, c'est assez simple, c'est assez peu onéreux. Et du coup, à partir de ce moment-là, nous, on s'est dit, on a quand même l'âme d'un label. On veut pas juste faire de l'argent en mettant des artistes sur un label, sur une playlist. On veut aussi que les gens reconnaissent nos artistes. C'est pour ça qu'on a bossé beaucoup sur Sleepy Fish, en créant une petite histoire et en créant un petit poisson, que les gens reconnaissent. Et même maintenant, avec les artistes avec qui on travaille, on essaie de trouver le son, un son spécial pour chaque artiste, pour justement éviter ce côté lo-fi qui ressemble un peu à tout. Donc, on essaie quand même de faire la différence maintenant entre lo-fi et chill-hop, qui est... chill-hop est devenu un genre aussi, malgré lui, qui est justement ce côté instrumental, pas forcément le cliché du vinyle qui craque, des samples de bruit, d'environnement, des choses comme ça. On essaie vraiment de... Je pense qu'Arnaud pourra le dire, parce que tu t'identifies pas un artiste lo-fi hip-hop non plus, je pense. Qui non, utilise sa guitare et je pense que l'Indécis a un son maintenant. Les gens reconnaissent l'Indécis par son son, par son nom et je pense que tu peux le voir au nombre d'abonnés sur Spotify aussi. Les gens veulent redécouvrir les sons qui sont rien qu'à toi. Donc voilà, nous, notre combat maintenant, c'est vraiment de faire des artistes au sens classique du terme.
Parce que j'allais dire, et après Arnaud, je te laisserai, parce que tu es quand même le premier concerné, puisque tu es même un artiste de cette musique, sur Chill-Hop, etc. Il faut que tu nous dises un peu, est-ce que tu as l'impression effectivement que tu es...
J'avoue que j'ai identifié. Une vision un peu plus déprimante de branding et tout ce qui se passe autour de la scène. En fait, moi, le problème, c'est que je trouve que le branding, ça dessert pas du tout le propos de l'artiste. C'est vraiment une espèce d'enveloppe générale qui sert le label et qui... Pour moi, en tout cas, ne sert pas l'artiste.
Dans quel sens ?
Dans le sens où, vu que le label Chill-Hop est aussi une plateforme de diffusion, ils ont forcément d'autres problématiques.
Quand tu dis plateforme de diffusion, c'est parce qu'ils ont leur propre chaîne YouTube ou
parce qu'ils ont leur propre chaîne YouTube, parce qu'ils ont aussi leur playlist, etc. Et là, je parle de Chill-Hop, mais on pourrait aussi citer Chilco, etc.
Bien sûr.
Et du coup, forcément, ça crée une espèce d'uniformisation d'un système qui fonctionne, tu vois, un système économique, le système des playlists, l'aspect visuel qui, tu vois, est toujours dans une espèce d'ambiance chill, dans ce truc-là, etc.
Très japonisant,
etc. Alors après, voilà, je trouve qu'il y a des extrêmes. Pour moi, il n'y a pas un label qui est pareil à ce côté-là, tu vois, et ça, c'est cool, parce que chacun fait de sa façon, d'une bonne, d'une mauvaise, pour certains. En tout cas, je trouve que si on parle vraiment de branding, moi, ce n'est pas un truc qui me fait bander, je ne sais pas comment dire, mais pour moi, c'est plus une enveloppe globale du label et pas un propos pour un album, un single, tu vois. C'est un peu comme si, tu vois, tu parlais d'étiquette tout à l'heure, comme si on te tamponnait le visuel chill-hop dessus, tu vois, alors que peut-être c'était pas la vision que tu avais au début, c'était peut-être pas ça que tu voulais communiquer, c'était peut-être pas du chill pour une fois, même si le morceau est doux, peut-être c'était un truc un peu plus mélancolique, voilà, j'en sais rien, tu vois. Mais
pourtant, t'avais un logo, ça fait partie de ta marque aussi, ça fait partie de... Même si, que tu le veuilles ou non, tu es ta propre marque, tu veux que les gens puissent te reconnaître parmi... c'est le but d'une marque, c'est de se différencier. Et du coup, je me souviens quand tu m'avais envoyé ton logo et tu voulais qu'on le mette sur les pochettes. Et en fait, ça, c'est plus ta marque à toi. Et quand tu fais un projet en indépendant, c'est vrai que c'est important d'avoir sa marque. Même si c'est déprimant, t'en as besoin. C'est super utile.
En fait, moi, je pense que... Si on rentre dans les...
Non, mais c'est intéressant. Mais parce que peut-être que ce que pointe du doigt Arnaud, c'est pas tant l'inutilité du truc, mais peut-être ses limites plutôt. Et que,
moi, c'est les limites. Ouais. C'est que, en fait, je trouve que c'est forcément dans un cadre. Et il est plus ou moins large selon les labels, tu vois. Il y en a qui laissent plus de liberté à l'art, etc. Mais il y a des labels où vraiment chaque release, c'est la même chose visuelle. Alors après, ce qu'il y a à l'intérieur... ça peut se différencier, mais
même le nom,
c'est vraiment, voilà, c'est toujours le même modèle économique. On sait que cette plage, elle a marché et que maintenant, enfin, tu vois ce que je veux dire.
Ouais.
Et même chez Chillop, je trouve que ça reste aussi une limite et un problème. Alors après, comment le solutionner, il y a plusieurs choses. Mais je trouve que le branding Chillop est quand même utilisé un petit peu à outrance, en tout cas, à mon humble avis. Quand on voit quoi, là, il y a des peluches, des t-shirts, enfin, tu vois, tout ça, en fait, moi, c'est des trucs qui ne servent pas à mon propos et qui servent uniquement le label. Et je comprends aussi que ça soit le cas, tu vois. Mais ça reste un problème.
Je vois deux trucs intéressants un peu autour de cette thématique. C'est que, d'une part, d'un point de vue purement musical, c'est quand même un style musical, il faut bien le dire, qui est très standardisé, qui a été très avec des codes très précis, etc. Et qui fait que parfois certains artistes, pas les plus talentueux souvent d'ailleurs, ont créé une espèce de, tu vois, un cliché.
Un modèle type.
Exactement, un modèle type. Et qui, quoi qu'on en dise, même si on aime ou pas, a participé à façonner encore plus, en tout cas à matraquer à nouveau une esthétique sonore, etc. Et à faire que, bah pour certaines personnes, et moi c'est pas mon cas parce que c'est une musique que j'aime, mais Lofi c'est de la musique d'ascenseur, c'est de la musique de background purement, etc. Et puis c'est tout. Alors que je sais qu'il y a aussi de la richesse. C'est Pandrez qu'on avait reçu dans le podcast, on en avait parlé, lui voyait aussi des limites à ce style musical et pourtant il l'aime aussi. Et pour lui c'est une musique fine par exemple, qui exige de la finesse en réalité. Et je suis assez d'accord avec ça, quand elle est bien faite, ça peut être très fin. Mais c'est vrai que ça c'est un truc qui pose problème. Et il faut bien le dire, et là on en arrive à l'autre truc, c'est que le problème c'est les canaux de diffusion. Et en fait, ils sont liés à ça aussi. C'est que tu as tendance à standardiser aussi d'un point de vue sonore. Si en fait, tu as besoin d'un truc en continu, où ça se passe, c'est très smooth les transitions, c'est une radio, etc. Il y a une cohérence dans l'ensemble. On sait que les mecs, 24 heures sur 24, ils peuvent se connecter à la chaîne, ils savent qu'ils vont avoir ce type de son, ils l'attendent, il faut répondre à leurs demandes. Donc c'est vrai que l'artistique et les canaux de diffusion en fait sont intrinsèquement liés.
Et surtout que maintenant les canaux de diffusion, tu vois, on en parlait tout à l'heure, maintenant un label est un canal de diffusion aussi, surtout quand on parle de chillop et de lo-fi, et a ses propres playlists, etc. Ce qui n'était pas le cas avant, tu vois. Avant, quand t'étais playlisté, c'était des playlists éditoriales. On peut citer Jazz Vibes, voilà, ce genre de truc. Et en tout cas dans le passé, parce qu'après ça a changé, mais c'était vraiment
fait, mais c'est les plateformes, Spotify fait ses propres trucs éditoriaux, etc.
Voilà, mais maintenant c'est un peu shady, on sait pas trop, il y a souvent des mauvais morceaux qui sont dedans, etc. Mais avant, quand c'était Athéna qui gérait les playlists, une personne qui bossait à Chillop, on sentait vraiment que c'était fait par passion, que ça allait piquer un peu des artistes à droite et à gauche, etc.
Elle bossait à Spotify, pas à Chillop.
J'ai dit à Chillop ?
Oui, t'as dit à Chillop. Oui,
ah pardon, le lapsus.
Ok.
Non, elle a pas bossé à Chillop. Non, à Spotify, pardon, c'était une erreur de ma part. Mais voilà, en tout cas, quand c'était cette personne qui gérait les playlists, je trouvais que c'était fait avec passion, qu'il y avait des pics qui étaient faits et pas du tout un regard sur tel ou tel label, tu vois. Et maintenant, le problème, c'est que aujourd'hui, c'est Chillco qui a la plus grosse playlist Spotify, qui est même au-dessus des playlists éditoriales officielles. Et donc, du coup, forcément, c'est leur roster à eux qui sont dans ces playlists-là. Donc, s'ils n'ont pas un son qui fit suffisamment avec cette playlist, avec tout le schéma qui a été créé, ça ne va pas rentrer et ça ne sera pas diffusé. Et du coup, on arrive, tu vois, sur un truc où forcément, tu es obligé de créer une musique pour, quoi.
Il faut le promouvoir.
Et ça, moi, c'est quelque chose qui me rebute un peu.
Il faut bien comprendre, pour ceux qui ne connaissent pas forcément cette scène, c'est là où on peut être un peu critique. Et d'ailleurs, je trouve ça positif qu'un artiste au sein de son label puisse aussi, tu vois, dire j'ai pas exactement la même vision, même si on peut s'entendre sur plein de trucs.
Ah oui, tout à fait.
Mais que ce soit clair avec tout le monde, l'histoire de Chillop montre que c'est des passionnés avant tout, que c'est un truc de partage, etc., qui est né comme ça. Mais après, forcément, évidemment, ça devient un business. Et l'idée, c'est pas de vendre son âme au diable pour l'argent, etc., mais c'est juste de... T'essaies de faire tourner la boutique, quoi, c'est normal, tu vois. Et ça peut aussi quand même amener des difficultés. Et effectivement, comme on le disait, là, Arnaud, en tout cas, le sent un peu comme ça, c'est pas évident de faire... cohabiter à la fois le branding du label, l'identité des artistes. C'est pas que de votre faute, comme on le dit, parce qu'il y a aussi le genre musical, les canaux de diffusion. Typiquement, est-ce que Bastien, il y a un truc que vous essayez de développer aujourd'hui pour donner une ampleur différente à Chillop et peut-être accentuer justement la marque de fabrique de chaque artiste individuellement, son identité?
On prend des risques en travaillant avec des artistes qui sortent justement moins en moins de lo-fi et qui ont plus de hi-fi, si je peux me permettre, donc plus de qualité, plus de...
Ouh,
C'était fin.
Il y a un petit jeu de mots.
Et on termine là-dessus.
Il se fait tard. Hein.
C'est vrai qu'il n'y a plus beaucoup de luminosité ici.
Il va être temps de continuer cette phrase maintenant.
Merci. Tu peux t'arrêter sur ce moment de gloire à la limite de la
si tu as un dab. Non. Je laisse le dab à Pandres. Je pense que nous, on travaille plus avec des artistes qui ont envie de sortir un peu de ce carcan. Parce que ça reste un carcan, quand même. C'est dur d'en sortir. Je pense qu'on peut demander à tous les artistes qui font de la lo-fi. À un moment, ils ont du mal à faire autre chose parce que c'est plus simple, ça rapporte plus et il y a plus de chances de générer des streams quand on fait de la lo-fi. Donc nous, on essaie quand même de travailler avec des artistes qui font autre chose que de la lo-fi, donc des choses un peu plus futures, des choses même un peu plus folk, un peu plus pop, mais toujours sur une base de hip-hop instrumental, bien sûr, parce que je pense que c'est quand même ça, le cœur de Chillop, c'est musique instrumentale. Lo-fi, je pense que c'est devenu un terme un peu trop général qui met tout ce qui est instrumental et juste relaxant, alors qu'en fait, lo-fi, ce serait plutôt un sous-genre du hip-hop instrumental. Donc, lo-fi hip-hop, on l'appelle. Et Chillop serait un autre sous-genre du hip-hop instrumental. Et on essaye de bosser avec plus de voix, de chanteurs, de chanteuses, pour aussi de musiciens. Même Arnaud va certainement nous parler de son expérience avec le live, s'il veut, bien sûr.
Oui, tout à fait.
Et c'est vrai que nous, on aimerait bien mettre nos artistes un peu en avant, qu'il y ait des gens qui seraient prêts à payer leur ticket pour voir un de nos artistes sur une scène qui pourrait délivrer une nouvelle expérience. Parce que quand on fait la musique relaxante, on a envie d'être tout seul. Quand on l'écoute, les gens qui l'écoutent ont envie d'être tout seul, mais n'ont pas forcément envie d'être dans une salle avec plein de gens qui boivent, qui parlent. Nous, on se rapproche plutôt du jazz, donc tu vois, des gens qui s'assiéraient. Je ne sais pas si vous avez déjà été dans un jazz bar. En général, les gens
consomment. Non, ça ne se voit pas. Hein. Jazz bar, moi, je suis comme ça, les mains en l'air. Ouais. Fou, mec.
Tu slams. mais l'idée, c'est que les gens passent un bon moment. Donc, nous, on essaie quand même de trouver des techniques. On va ouvrir un café à Rotterdam. Dans ce café, on va forcément passer un peu de musique de notre label, un peu de musique d'autres genres musicaux, mais surtout garder cette atmosphère relaxante et qui t'aide à te concentrer, qui t'aide à te sentir bien.
C'est intéressant ce que tu dis, parce que justement, ce qu'on dit, moi en tout cas, ce que je relevais, c'est que c'est le canal qui posait aussi problème. Et que là, en fait, vous multipliez les canaux, et pas seulement les canaux web, justement, parce que c'est l'idée qu'on se fait souvent d'un artiste, c'est aussi quand même le spectacle vivant, c'est aussi l'apparition, pourquoi pas, dans des médias, des interviews, toucher un peu à tout, être présent. Et c'est vrai que tout ça, c'est un truc qu'on voit assez peu, en fait, dans votre genre musical.
Déjà aussi à l'origine c'est né, tu vois, des bedroom producers, etc., tu vois, et c'est vrai que c'est des gens qui, en fait, même limite ne voulait pas ça, tu vois. Je sais qu'il y a énormément d'artistes, et aujourd'hui tu leur poses la question à Chillop ou dans n'importe quel label, ils vont dire non, moi je veux pas faire de live, je veux continuer à produire de mon côté, à diffuser ma musique. Maintenant c'est devenu une nouvelle façon de faire la musique, et c'est vrai que c'est vrai que j'aime le côté live, donc c'est quelque chose qui m'intéresse, même si je me questionne beaucoup sur qu'est-ce que je vais faire, tu vois, parce que à la base je suis tout seul. Donc maintenant j'ai trouvé, je sais que j'ai envie de travailler avec des musiciens et d'apporter un truc où je suis pas sur le devant de la scène, et c'est l'un des six live bands, tu vois, j'ai pas envie de faire ça, si ça s'appelle comme ça ce sera terrible, mais non, je veux vraiment que, tu vois, on fasse un projet musical pour le live, où éventuellement on va rejouer mes morceaux, on va prendre des idées, etc. Mais je me suis rendu compte que moi tout seul proposer ma musique en live, c'était pas un truc qui m'intéressait, et je me sentais pas légitime de le faire non plus.
Mais toi, tu le vis mal, c'est un bien grand mot, mais tu sens quand même qu'il y a un truc encore à travailler pour que tu sois identifié en tant qu'artiste. C'est-à-dire que t'as un morceau on prend un seul, mais Soulful à 40 millions d'écoutes, et tu te dis, putain, et personne, mon nom, il parle pas à grand monde au final. Est-ce que tu le vis un peu comme ça ou pas?
En vrai, franchement, je suis étonné. Alors moi, ce qui est bien, c'est que j'ai pas cette espèce de, comment on peut appeler ça, je suis pas une célébrité, tu vois ce que je veux dire. J'ai eu ce morceau qui a bien marché, et franchement, très régulièrement, quand je rencontre des gens, etc., on me dit « Ah, mais je connais, tu vois. » Et déjà, juste ça, enfin, moi, je trouve que c'est incroyable. Je pensais jamais que ça allait m'arriver, tu vois, juste qu'on me dise « Ah ouais, Soulful, j'ai déjà écouté, tu vois. » Et en vrai, déjà, ça, moi, ça me suffit amplement et je pense pas manquer de quoi que ce soit à ce niveau-là.
Mais par contre, tu as envie, effectivement, de développer d'autres choses qui sont peut-être un peu moins dans la scène dans laquelle tu gravites, c'est le live, etc., quoi.
Ouais, c'est sûr que le live, pour moi, c'est quelque chose de tout à fait différent. Et tu sais, cette espèce de sentiment que t'as une fois que tu viens de voir un artiste pendant une heure, il t'a fait un truc, tu sais, complètement que t'attendais pas du tout, tu vois. Mmh. Et moi, j'ai envie de vraiment de travailler sur un live où ça va pas être du chill-up en live, tu vois. Je veux vraiment pas ça. Je veux que ça soit un vrai concert avec plein de propositions autres que juste de l'instrumental hip-hop. Tu vois. Mmh. Mais c'est complexe. Il va falloir y réfléchir.
C'est clair. Michel, ça t'évoque des trucs, tout ça, t'as...
Rien du tout, moi.
Moi, le live...
C'est la fatigance, là. Non, mais et puis en plus, c'est marrant parce que, Michel, justement, tu t'inscris un peu dans la pratique complètement du bedroom producer aussi, le live, c'est... Sauf que toi, t'es pas enfermé dans un style, dans un genre musical, quoi. Mais toi, c'est voilà. Encore un animal différent avec la musique sur mesure et tout.
C'est un animal. Une bête de sexe.
Une bête de sexe.
On peut le dire.
Est-ce que tu es une mouche? Est-ce
que je ne suis pas une mouche, je suis plutôt un bélier, car je suis né mi-avril.
Bientôt ton anniversaire.
Oui, tout à fait. Bon. Mais c'est pas moi, le rapport au live, ça m'a jamais vraiment super intéressé jusqu'à maintenant, en tout cas, tu vois. Mm-hmm. J'en ai fait quelques-uns, j'ai vu quelques concerts et tout, mais je suis plus un type casque, écouteur, je marche la nuit, bang bang, ou alors dans le studio, tu vois. Je suis plus un type... je sais pas comment dire, intrabilaire au niveau de la musique, tu vois. Je le vis plus à l'intérieur qu'à l'extérieur. Même si il y a des trucs, ça me fait casser la nuque, tu vois. Et des trucs, ça part dans mes hanches directement, je me dandine. Mais je suis pas trop dans le live de manière générale. Je suis pas dans le partage. Je suis plus vraiment un gros égoïste.
Ah, yes. Oh, l'honnêteté, j'apprécie.
Transparence.
Mais en vrai, moi, je pense que c'est aussi peut-être le live un espèce de, tu sais, de challenge. Parce qu'en vrai, moi non plus, tu vois, c'est marrant, mais je m'imagine pas sur une scène, tu sais, être moi et jouer de la guitare ou faire du clavier, tu vois.
Bouger les choses ce soir.
Voilà, tu vois, tout ça, c'est vraiment un truc. Je me dis, mais qu'est-ce que je fous là, tu vois. Mais je pense aussi il y a une manière de bien le faire et de kiffer. Et du coup, les gens voient que tu kiffes et que tu t'amuses, tu vois, et ça peut être cool. Peut-être que je vais faire quelques lives, je vais me dire, bah non, c'est pas pour moi, et je vais retourner dans ma chambre faire ma musique.
C'est incroyable. Au-delà du côté fame ou du côté de la blague, vous êtes là pour moi, mais juste le fait d'offrir un spectacle aux gens, c'est quand même un truc. Après, on est tous différents, évidemment, mais ça me paraît être un truc super. Qui fait envie
de faire. En plus, je connais tellement de musiciens trop talentueux, tu vois, des pianistes, des gens qui font de la guitare, de la basse. Qui sont vraiment des talents de fou et qui ont pas forcément fait de lo-fi, de trucs comme ça, et qui sont pas connus entre guillemets, et je trouve ça dommage de pas utiliser aussi un peu ces talents pour proposer un truc en live avec tout le monde. Et je sais pas, ça peut être
c'est du jeu, c'est ludique, ça peut être super intéressant moi ça m'étonne toujours, hein, les musiciens, c'est vrai qu'ils sont pas attirés par le live, tu vois,
il y a vraiment des trucs qui ont l'air trop stylés, hein. Moi je vois Jacob Collier et tout qui fait chanter certaines parties de la salle et il leur fait faire des harmonies,
c'est de l'échange, c'est riche,
ce genre de bail, ça peut être archi bien, tu vois, mais je sais pas, je crois que c'est juste une question d'introversion,
peut-être, c'est vrai.
Peut-être qu'un jour je séparerai la foule en deux, tel Moïse, ça sera ma consécration, et je dirai ça y est, c'est bon, j'arrête tout.
Oui.
On va slammer.
Non, le chauffeur de salle, par contre, ça sera sans moi.
Non, ça c'est pas nécessaire.
Je proposerai un truc et c'est tout.
Bon, les gars, en tout cas, je vous remercie d'avoir participé, Bastien, Arnaud, c'était très intéressant.
Au plaisir.
Je sais pas si on a répondu absolument à tout le monde sur les questions, vraiment à quoi ça sert le label, etc., mais on s'est appuyé sur une belle expérience qui est celle de Chillop, les particularités. Je pense qu'il y a eu des débats de fond intéressants avec pas tout le monde d'accord, etc. Donc vraiment, je vous remercie pour ces discussions. Michel, t'en as pensé quoi, toi?
J'ai adoré ça. Merci
de nous avoir.
C'était un plaisir.
Moi, j'ai bien aimé. C'était un petit peu long. Mais sinon, c'était
aussi qu'on a commencé en retard.
Mais c'est ça. Ouais. C'est que c'était une galère absolue, ce tournage. On s'est mis 2 heures avant que ça commence réellement, forcément. Là, ça fait quoi? C'est 4 heures. C'est 4 heures qu'on est là. Ouais, forcément, ça.
C'est ça. Mais en plus, le sujet, franchement, est infini. Surtout quand tu parles, tu vois, des labels, des diffs. Enfin, c'est tellement devenu complexe aussi aujourd'hui. On pourrait en parler des heures.
Non, mais c'est, je suis content que l'idée, c'était pas d'être exhaustif forcément sur cet épisode. Parfois, on essaye d'être très didactique, etc. Mais là, c'était plus, ouais, je pense, de parler d'expérience propre à chacun. Et puis surtout parce qu'on aime bien Chill Up. Globalement, oui, on aime bien.
C'est merci. Ça, je trouve ça. Je pense qu'en vrai, on aura un très bon épisode, rien que par le fait que vous êtes tous les deux très pertinents dans, dans vos expériences mutuelles. Mmh. Et que comme ça, on a vraiment les deux sons de cloche. Et là-dessus, c'est cool. Puis. Je pense qu'en termes de contenu, on a vraiment du chouette contenu.
Mmh. Oh, cool.
En tout cas, moi, je suis honoré d'avoir pu avoir une discussion de 2 heures avec le créateur de la Zizi Kaka Mixtape qui arrive. Est-ce que tu veux peut-être nous faire un petit teasing qu'on a musique?
Bah, attends, Zizi Kaka Mixtape. Quoi, les gars? Juste, attendez, on fait un tour de table comme ça. Michel qui fait sa promo et après, les autres, vous enchaînez, vous nous dites tout ce qu'on peut vous retrouver, ce que vous voulez mettre en avant. Comme ça, on clôture l'émission comme ça. Allons-y.
Et je passerai la torche. Zizi Kaka Mixtape, je veux que tout soit fini mi-avril et que ça sorte en mai-juin. La meilleure mixtape de merde qui soit jamais sortie. Des noms incroyables que je peux pas dire maintenant parce que je veux leur laisser une porte de sortie. J'aime pas prendre les gens en otage, mais quand ce sera bien estampillé, on va commencer à larguer les noms. Vous allez faire waouh, c'est vraiment des gros noms.
Soulful 2, Soulful 2, je peux l'annoncer Soulful aujourd'hui. Soulful 2 sur la Zizi Kaka Mixtape, ça arrive fort. Imagine, je le refais des balles. C'est incroyable.
Sample ta propre musique, tu samples Soulful 1 pour faire ça.
Non, mais genre, je refais tout le morceau, mais mal.
Tu prends les mêmes, tu prends les mêmes accords, mais tu les mets en diminué.
Ah non, quel enfer.
Diminué. Moi, je suis très chaud. En tout cas, peut-être l'un des 6 sur la Zizi Kaka Mixtape, c'est ce que je souhaite.
Ça serait avec plaisir, on va essayer de voir ce qu'on peut faire.
Droppera un like sur Instagram.
Let's go. Et où est-ce qu'on peut vous retrouver, mon cher Arnaud de l'Indécis, par exemple?
Sur les réseaux sus. Moi, mon réseau principal est Instagram, mais je suis aussi beaucoup plus sur Twitter grâce à Chronomusique. Merci Chronomusique.
Donc, sur Instagram,
L_Indécis, et sur Twitter, je crois que c'est l'Indécis Musique, il me semble.
Okay.
Voilà, yes. Je suis vraiment actif sur les deux. Après, le reste, je suis pas du tout actif. Et après sur Spotify si vous voulez suivre les releases.
Super. Bastien, qu'est-ce que tu nous conseillerais pour découvrir l'univers Chill Up?
Écoutez, nous suivre sur YouTube, donc Chill Up Music, c'est le meilleur moyen de voir les projets dans leur intégralité. Et nous suivre sur Instagram, c'est aussi pouvoir suivre ce qui se passe de temps en temps derrière le label, suivre l'évolution de la création du café. Voilà, de suivre un peu tout ce qu'on essaye de mettre en avant, notamment les artistes. Donc, Chill Up Music, en anglais, CHILLHOPMUSIC.
Il l'a fait! Il est bon!
Yes!
Merci beaucoup, les gars, en tout cas. Oui, ça m'a fait très plaisir.
Pardon! Oui, c'est vrai, quand même. Ma promo, s'il vous plaît. C'est très simple, sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter principalement, surtout Instagram, mais j'ai envie de me mettre un peu plus à Twitter aussi, donc même si je sais pas quoi. Moi, j'ai du mal à cheat poster comme ça. Je suis pas un mec drôle.
Il faut juste lire.
Qu'est-ce que tu veux que je mette?
Non, mais tu lis les...
Tout de suite, il faut pas réfléchir, il faut juste tweeter.
En tout cas, Salman Sali, vous pouvez me chercher, je suis partout, Insta, Twitter. Et puis regardez les autres émissions de la chaîne si vous le faites pas. Si vous écoutez en podcast, venez nous voir sur la chaîne YouTube Monte le Son. Si vous regardez la chaîne YouTube Monte le Son, allez écouter en podcast. Non mais c'est vrai, ça dure une heure et demie. Non mais ça dure une heure et demie, peut-être que vous avez envie de vous mettre ça sur le trajet pour aller au taf ou je ne sais quoi, ou prendre le temps de l'écouter en plusieurs fois. L'audio, c'est pratique. N'hésitez pas, c'est dispo sur toutes les plateformes de podcast, Spotify. Même moi, je suis sur Spotify, vous voyez? Vous la racontez là. Vous allez voir sur Spotify. Moi aussi, je suis sur Spotify.
Ça release des sons?
Non, c'est avec le podcast.
Bastien.
Oh là là.
Moi, j'attends Voilà, je t'ai vu jouer de la guitare en off.
Écoute,
C'est vrai.
Peut-être.
Il y a des guitares derrière toi.
Peut-être. Un feat avec Arnaud.
Peut-être Salman sur la Soulful 2.
Allez, qui sait. Je travaille pour. J'ai moins de talent que certains, donc il faut que je travaille plus et je sais pas si j'arriverai, mais on va essayer.
Le travail, ça paye toujours.
Absolument. À dans un mois, Michel, et encore merci, Bastien, Arnaud. Et puis
merci beaucoup à vous, les gars.
À bientôt.
Des bisous.
Des bises.
Ciao.
Ciao.